c'est bien, hein. Vox, c'est l'article Delirious, nouveau titre. Hier, on s'est rendu compte que cet artiste que j'avais écouté sur un ou deux morceaux était plutôt pas mal, donc je vais en chercher d'autres. Vous allez bien ? Oui, Julo a remarqué à l'instant qu'on avait évoqué un double stream Twitch-TikTok ce matin, et on va le faire. Là, maintenant, tout de suite. Mais je fais mes premiers pas sur TikTok en live. Depuis hier, on a fait des petits tests techniques et on m'a dit, mais les intros sur TikTok, la musique, tout ça, non, faut pas de... On y va, quoi. Donc, on va lancer là, maintenant, tout de suite. Vous êtes prêts ? Voilà. Donc là, je vous privilégie. Hein. Je vous privilégie. Donc, on a lancé d'abord le live sur Twitch. Et là, tout de suite, on va lancer le live sur TikTok. Voilà. Bon, ça pose plein de questions, hein, donc technique, de mise en forme, de modération, sachant que je suis revenu sur le format vertical et non pas paysage, tout simplement parce que si le format horizontal impliquait de retrouver le chat de Twitch sur TikTok. Alors, les gens de TikTok allaient se retrouver avec deux chats à l'écran, c'est un peu illisible, voilà. Donc d'abord pour cette raison, on va être sur un format vertical, très TikTok, un peu fouillis parce que du coup le chat de TikTok et l'écran sur TikTok est un peu chargé. Va sans doute recouvrir pour ceux qui n'enlèvent pas les articles quand on passera en mode lecture des articles, là, et pas de quoi. Mais voilà quoi. En tout cas très à l'écoute de vos avis sur ces premiers live TikTok. On va voir si ça fonctionne, si c'est intéressant, si c'est satisfaisant, si ça apporte quelque chose. En plus, au contraire, ça nous embête, quoi. Est-ce que vous êtes prêts pour lancer le live sur TikTok ? J'attends votre feu vert. Merci beaucoup, Skats Parmal, pour le 46e mois. Merci, Pakoun, pour le 39e mois. Merci, Julo18, pour le 47e mois d'avant. Yes ! Ok, je lance. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc bonjour à tous, bonjour sur Twitch, bonjour sur TikTok. C'est la première fois qu'on lance un live de revue de presse que je pratique depuis 5 ans sur Twitch, sur TikTok. Voilà, c'est un petit test, une petite expérimentation. TikTok, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, sur laquelle je suis assez actif, mais où je poste essentiellement des clips, des extraits de mes... De mes lives Twitch, voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de proposer directement aussi cette revue de presse sur TikTok tous les matins. Voilà. Déjà 5 ans sur Twitch. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Voilà, hier soir, on s'est fait une petite session Valo qui était plutôt sympa. Il y aura peut-être un stream de gaming ce soir, mais assez tard. J'ai un dîner avec mon amoureuse. Mais en tout cas, ce matin, on est en revue de presse jusqu'à midi 30. Comment ça va ? Du coup, tu as deux scènes différentes, une pour Twitch, une pour TikTok. Oui, oui, exactement. Ouais. Et deux chats aussi. Merci, Ternalis, pour le 26e mois. Voilà. Deux scènes, deux chats. Voilà, comme ça. Ceux qui préfèrent Twitch, vous êtes sur Twitch. Comme ceux qui préfèrent TikTok, vous êtes sur TikTok. Voilà. Puis, bien sûr, le projet, c'est d'aller sur LinkedIn, sur Minitel, sur Fax. On fera cette revue de presse sur Fax bientôt. Pigeon voyageur aussi pour pouvoir toucher le maximum de gens. Voilà. Voilà. Donc, petite expérimentation. Bien de bonjour Samuel, j'adore tes lives, continue comme ça. Merci Jérémy, c'est super gentil. Et ceux qui préfèrent Valo, sur Valo, exactement. Il est stylé ton décor. Mais, oh, oui, oh, c'est mon petit décor à moi bricolé, quoi. J'ai mis Twitch sur mon iPad et TikTok sur mon tel, ça marche bien. Samaka, tu n'es pas obligé de regarder les deux. Hein. Tu n'es pas obligé de regarder. Oui, bientôt sur MSN, bientôt sur AOL. Voilà. Je suis en train de discuter avec les gens de Caramel également pour voir si je ne peux pas être exposé sur cette plateforme de mail qui est en train de grossir beaucoup là. Caramel, je pense que c'est... Ressortez vos tam-tams pour les notifications. Oh, Fiat, c'est un mot que j'ai pas entendu depuis super longtemps, quoi. Avant, très bonne blague d'Alastair qui est validée. Avant de toucher un max de gens, demande leur autorisation, c'est bizarre. Ouais, ouais. Je t'ai pas trouvé sur Lycos. Ouh. Et en fait, c'est amusant parce que certains pensent que ces deux univers sont forcément très très différents. Twitch, TikTok, c'est pas forcément les mêmes communautés, pas forcément le même. Eh ben, c'est le même humour en tout cas. C'est le même humour. Hein. C'est ce qu'on a vu hier. On a lancé un stream test sur TikTok hier après-midi. On a vu que c'était. Les deux univers ne sont pas si éloignés que ça, contrairement aux idées reçues de chacun et de chacune. Victor Itou, salut Samuel, sache que tu m'inspires beaucoup. Toi aussi. Parce que vous m'inspirez énormément. Je vis ma meilleure vie depuis presque 5 ans ici. Le bebop, ça marche toujours. Qui a connu? Alors, je ne sais pas si ça marche toujours, mais j'ai connu, ouais. C'est les premiers téléphones portables, ça. Quel est le but du live? Je viens d'arriver, demande Michel. Michel, c'est quelque chose que je fais depuis presque 5 ans sur Twitch, quasiment tous les matins, et de plus en plus tous les matins. Moi, je suis un journaliste depuis 30 ans, et je suis un amoureux de la presse écrite. Voilà, j'estime que c'est l'une des meilleures sources d'information, la presse écrite, alors quotidienne, nationale. Hein, y a, la presse, elle est multiple. Il y a plein de presse. Il y a la presse quotidienne nationale, les journaux qui sortent tous les jours, tous les matins. Donc tiens, je vais vous montrer d'ailleurs ceux que je lis le matin, par exemple. Voilà. Et après, moi, j'ai fait un choix. Voilà, regardez. Voilà, hop, je mets la même scène sur TikTok et Twitch. Voilà, donc là, vous voyez sur cette tablette iPad que j'utilise, je lis tous les matins des articles que j'ai choisis. Pas la presse hydraulique, non. Très bonne blague. Dans ces journaux, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Voilà, je suis abonné à tous ces journaux. Je fais une petite sélection d'articles sur les actualités qui me semblent importantes. Voilà, et on en parle ensemble, voilà, pendant 3 heures. Alors, j'aurais pu choisir de lire aussi la presse étrangère, la presse magazine, la presse qu'on trouve que sur Internet, etc. Mais c'est une matière qui est trop importante. Donc, moi, j'ai choisi cette presse-là. C'est une presse que j'aime, que je lis depuis toujours, depuis 30 ans. C'est la presse quotidienne nationale. N'hésitez pas aussi à lire les autres presses. On a la chance d'avoir une presse de qualité en France. Autant en profiter, parce que si on ne la lit pas, elle va disparaître. Merci beaucoup Anonyme31 pour le 41e mois d'abonnement, merci Clément Polito pour le 32e mois d'abonnement, merci Gotham pour le Prime, merci Internalis pour le 26e mois, merci Betsu Goat du 92 pour le soutien, merci Sklad Sparmal pour le 46e mois, Pakun Julo, je vous ai dit merci. Tu prends quoi de la... Ouais, je vous dis que c'est le même humour. Sur TikTok, on me dit, tu penses quoi de la presse citron? C'est le même humour! C'est le même humour! Comment tu vois ta façon d'exercer ton métier dans les prochaines années? Est-ce que tu penses finir par migrer totalement sur Internet, me dit Dragono, notamment sur Internet? C'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que moi, je lis, je fais encore un petit peu de télévision, mais de moins en moins. Hein, je me suis mis en retrait de la matinale de France Info il y a quelques années. Question pour un champion, c'est en train de diminuer aussi. Voilà, donc je suis déjà beaucoup plus sur Internet qu'à la télévision, quoi. Mais après, j'ai rien contre la télé. J'ai travaillé 30 ans. Je serais très heureux de refaire des émissions en télévision, mais disons que ma priorité n'est pas là pour l'instant, quoi. Les gens posent vraiment toujours les mêmes questions. Tu manges du chou-fleur? Pour l'interrogation, ça change. Oui, j'en mange. J'en mange. J'en mange. Le problème, c'est que ça fait péter un peu quand même. Mais c'est très bon, hein. Chou-fleur, béchamel, le roi, quoi. Merci Ben Kenobi. Ben Kenobi, excuse-moi. Intéressant l'exercice de lire deux chats en même temps. Alors je lis vite, mais là c'est vrai que c'est... T'as les cheveux longs, tu peux faire des tresses. Oui, oui, effectivement, vu la, vous notez cette abondance capillaire, cette luxuriance des cheveux. Et c'est vrai que j'ai l'embarras du choix le matin, tresse, chignon, couette, dread. Voilà. Bon, ben, là, ce matin, j'ai fait sobre parce que j'étais pressé de vous rejoindre. Mais effectivement, demain, qui sait dans quel style nous apparaîtrons. Hein, voilà. Peut-être me mettre un petit coup de tondeuse parce que c'est un petit peu. J'avoue que, comme tu le disais, c'est un peu long là. C'est peut-être un petit peu long. Peut-être qu'on va mettre un coup de sobriété là-dessus cet après-midi. Peut-être un petit coup de tondeuse. Hein, c'est l'été, on en profite. Expérience. C'est vrai que la mèche devant les yeux pour lire les deux chats n'est pas simple. Laure et Leia, c'est pour ça que je suis ici. Moi, c'est pour cet humour, je kiffe quoi. Tes cheveux, ils brillent de ouf. Donne de la routine, s'il te plaît. Ben, en fait, ben, très bonne question de Looney. En fait, je suis un peu maniaque et à une époque, je cirais mes chaussures. Et notamment, un spécialiste du cirage de chaussures m'avait expliqué qu'il ne fallait pas forcément mettre du cirage en permanence sur les chaussures. De couleur finalement, et qu'il fallait mieux les graisser, les entretenir avec une graisse transparente et non pas de couleur comme l'est souvent le cirage quoi. Et donc un matin je me suis réveillé avec une espèce de flash, une fulgurance, une idée presque de génie, et je me suis dit mais ce qui fait briller mes chaussures, est-ce que ça ne peut pas me faire briller les cheveux? Et donc j'ai mis une petite noisette de cette crème incolore. Un peu grasse mais très nourrissante destinée à mes chaussures sur la tête comme ça et je frotte avec un gant spécial mais c'est un mouvement hein. C'est un mouvement circulaire, c'est un mouvement très circulaire, faut vraiment faire voilà, très régulier, très doux, voilà, et tu obtiens ce glow ce... Comment on vit, j'avoue. Bonjour Samuel, faites-vous des conventions pop culture? Si oui, comment vous contacter? Ça m'est arrivé, Foxtrot, j'ai un mail pro sur mon compte ex-Twitter. Toi, tu peux m'envoyer un mail si tu veux. C'est des implants tes cheveux? Ben, j'aurais peut-être dû en vrai, ouais. Je t'ai vu hier dans Question pour un champion, ta danse était super. J'ai dansé hier, Romain? Waouh! J'ai dansé hier, Romain. Merci The Voyageur pour le 43e mois. Merci Anonyme 31. Comme il y a toujours 2-3 mois de décalage entre les enregistrements et les tournages, je ne me rappelle pas de tout. J'ai dansé, j'ai bien dansé. Est-ce qu'à votre avis, je suis prêt pour danser avec les stars? Cyberpunk 2077, excellent jeu, on y a joué un petit peu ici. Joli. Olic édition 2026. Je sais pas si il serait assez fou pour me faire faire question danse avec les stars, mais ce serait drôle en vrai. Ce serait très drôle. Oh oui, Samuel Dandals, c'est validé. Je postule ou pas? On va en faire un donation goal de The Event, ça. The Event, début septembre, on va se régaler, on va collecter maximum de fonds grâce à Zerator et à tous ses amis pour des associations incroyables. On sera en live pendant 3 jours sur Twitch. Voilà. Et en donation goal, on pourra avoir ça, ouais. Oui, il faut que je postule. Si tu postules, quelle sera la star? Tom Thompson connaît mes talents de danse, donc il imagine que je ne serai non pas la star de Danse avec les stars, mais le danseur qui va accompagner la star. On n'en est pas là. Mon rêve, Samuel Etienne Dandals, Mitramax, tu régales. Maxime, j'ai vu ta question pas plusieurs fois, donc je vais y répondre. Je pense que tu vas rester avec un goût d'inachevé. Non, je n'ai jamais été au Puy du Fou. J'ai fait Baldur's Gate 3, oui. Avec Alpha Cast, je crois, effectivement. Ouais. Merci Navado. Merci Maluka. Merci pour les soutiens. Je prédis un parcours à Nelson Montfort. Nelson Montfort, dans mon souvenir, il s'est arrêté très très tôt dans Danse avec les Stars. Hein, je ne sais pas si c'est un encouragement, ça. Hélène n'est pas très partante pour danser avec les stars, mais bon, hein, l'amour. Merci Tangerine Nightmare. Vous faites quoi contre ce gouvernement, demande Fée Clochette. Alors, En fait, fait clochette, mon ami, il faut faire une distinction entre militants, moi j'ai beaucoup de respect pour les militants, les gens qui s'engagent, et les journalistes. Moi je ne suis pas un militant, ni politique, ni quoi que ce soit, même si j'ai des convictions et des valeurs. Et donc je ne milite pas. De temps en temps, j'émets des opinions, mais je reste d'abord un journaliste, quoi. Ah, c'est marrant, sur TikTok, il y a encore des gens qui parlent du vaccin du Covid. Sur Twitch, c'est passé. Mais du coup, vous êtes parti là-bas? Ah oui, alors, dans un instant, on va lire les journaux, bien sûr. On va beaucoup parler des incendies dans l'Aude, hein, parce que c'est juste. Là, on rigole, c'est la petite introduction, mais on va y aller d'ailleurs. Mais on va évidemment parler de l'actualité. On va notamment parler de ces gigantesques incendies dans l'Aude, hein, ces milliers d'hectares, la rapidité à laquelle cet incendie a progressé et progresse même, puisqu'en fait, je ne crois pas qu'il soit stoppé. On va aller voir ça et le pourquoi. Pourquoi il a progressé si vite? Il y a un problème d'entretien, de débroussaillage. Les journaux en parlent ce matin. Ouais, je vais vous montrer ça dans un instant. Bonjour d'un Rennais actuellement en vacances aux Canaries, ça fait plaisir. C'est grand les Canaries, Théo? Il y a Lanzarote, il y a. Videv me demande, Samuel, qu'est-ce qui fait que tu es venu sur TikTok? En fait, j'ai créé mon compte il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques mois, peut-être un an, je sais plus. Un an peut-être. Et par curiosité, pour y voir ce qui s'y passait. Je trouvais que les contenus étaient intéressants. Moi, je pense qu'on a tous des algorithmes différents et moi j'ai plutôt un contenu intéressant sur mon TikTok. Un peu d'actu, beaucoup de musique, beaucoup de batterie, de batteur, de quoi, de je sais pas quoi, du sport aussi. Et puis donc je le consomme. Et puis j'ai commencé à y poster des extraits de mes lives Twitch, les clips, avec ma camarade Lucie qui m'accompagne et qui gère cet aspect des posts d'extraits. Et puis progressivement, bah, mon nombre de followers a augmenté, bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Et puis j'ai constaté ces derniers mois qu'il y avait beaucoup de créateurs de contenu qui streamaient à la fois sur Twitch et TikTok, ou qui avaient commencé en live sur TikTok et qui étaient venus sur Twitch, bien souvent d'ailleurs, ou l'inverse. Et je me suis dit, c'est bien, c'est malin. Parce que du coup, les publics sont pas forcément les mêmes. Il y a des gens qui préfèrent passer du temps sur TikTok, d'autres sur Twitch. Et je me suis dit, bah, un contenu comme la revue de presse, ce partage de notre intérêt commun sur l'actualité. Voilà. Parfois, j'ai des petits messages qui m'interpellent. Notamment celui de Fée Clochette, là, qui est intéressant. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, on va exposer ce contenu sur les deux, quoi. Voilà, sur les deux plateformes. Ouais. Fée Clochette me dit, honte à vous d'être sur TikTok, faites votre métier. Voyez la misère de ce monde. Mais Fée Clochette, je te signale que pour écrire ce message, cela veut dire que tu es aussi sur TikTok, pour le coup. Donc, je ne sais que te répondre. Voilà. En tout cas, moi, je fais mon métier qui est le même depuis 30 ans. C'est-à-dire, je parle des informations, je parle des actualités. Ce qui est bien avec Twitch et TikTok, c'est au lieu d'en parler tout seul à des gens qui ne peuvent pas me répondre et ne pas m'interpeller, ici, on peut me parler, on peut me poser des questions, on peut me dire que j'ai tort dans mes analyses, on peut me proposer d'autres regards, d'autres. Voilà. Et ça, c'est juste formidable, quoi. Donc, c'est le même métier qu'avant, que je pratique depuis 30 ans, mais un peu amélioré, je trouve. Je trouve ça plus intéressant. Je te suis depuis Itélé. Itélé, c'était un bon souvenir, ça. Itélé, c'est l'ancien CNews. C'est Canal+ qui avait créé cette chaîne d'info. À l'époque, il y avait une seule chaîne d'info, c'était LCI, qui avait été créée par TF1. Et Canal+, à l'époque, s'est dit, on va créer une deuxième chaîne d'info. Après, BFM est né, troisième chaîne, et après France Info, la télé est née. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'une, c'était LCI. Donc ITélé s'est créé. Moi, j'ai passé 9 ans là-bas. ce qui m'a permis de travailler sur le groupe, pour le groupe Canal+ aussi, parce que Vitélé faisait partie du groupe Canal+, et c'est 9 belles années. Après, j'ai quitté le groupe Canal+ pour rejoindre France Télévisions, je suis arrivé à 17 ans. Puis après, quelques années après, Itélé a été racheté, enfin le groupe Canal+ même, par le groupe Bolloré, et puis Itélé est devenu CNews, quoi. Mais moi, j'avais quitté depuis très longtemps. Ici, on parle d'actualité, on parle un petit peu de tout, on parle aussi de santé mentale, parfois de quand ça va et quand ça va pas. Julio nous dit par exemple ce matin, Étienne, comment faire pour oublier son ex ? Tu peux m'appeler Samuel déjà. En vrai, tu n'as pas la main là-dessus, tu n'es pas. On a tous été confrontés à ça. Voilà. On a tous été confrontés à ça, ou on sera tous confrontés à ça. C'est assez douloureux. Je pense que tu n'as pas la main sur ça. C'est-à-dire que tu, malgré tes efforts, tu ne peux pas jouer sur le temps que tu vas mettre à, comme tu le dis, oublier ton ex. Une semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans. Alors, ce que tu peux faire en revanche, puisque tu n'as pas la maîtrise de ça, on est dans le domaine des sentiments qui est un domaine incontrôlable, ben, c'est que tu peux occuper ton temps. Tu peux non pas essayer d'oublier, mais essayer de t'occuper. Travail, sport, amis, passion, engagement, peu importe. Tu n'oublieras pas plus vite. Tu n'oublieras pas plus vite, quoique. Mais en revanche, ce temps, tu vas en faire quelque chose. Et ce qui serait dommage, c'est d'ajouter en fait à une souffrance psychologique, affective, un non-emploi de ton temps à des choses qui vont te construire, qui vont t'apporter des choses, quoi. Voilà, c'est le conseil de vieux que je peux te donner. Ne lis pas tous les conseils du chat. Il y a volontairement des mauvais conseils qui sont assez drôles en vrai. Quelle heure il est ? En général, je fais une petite demi-heure d'intro le matin, on est à 26 minutes, encore 3-4 minutes d'échange parce que c'est mon plaisir. Moi, je viens sur Twitch et maintenant sur TikTok pour échanger avec vous. En général, on commence par 30 minutes d'intro pour un peu se dire bonjour. Et après, on part sur un sommaire. Donc, en quelques minutes, est-ce que ITL était déjà d'extrême droite à ton époque, Étienne ? Non, c'était une autre chaîne. C'était très différent. D'ailleurs, elle a changé de nom. Hein. Et la plupart des journalistes qui étaient à ITL ne sont plus à CNews. D'ailleurs, il y a eu une grande grève à une époque et la plupart des journalistes sont partis. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Après l'intro d'une demi-heure, après on fait un petit sommaire. Un petit sommaire de, je sais pas, 5-10 minutes. Voilà, ou un quart d'heure, où je donne l'essentiel de l'actualité. Où je vous montre l'essentiel des articles. Comme ça, ceux qui n'ont pas 3 heures à passer avec nous, eh ben, vous avez l'essentiel de l'actualité. Et après, pendant les 2h, 2h30 qui restent, eh bien, on lit ces articles, on prend le temps de comprendre, on se pose des questions, on va chercher des infos, on vérifie des infos, je vous lis, on échange, on est d'accord, pas d'accord, on essaie de le faire de la façon la plus chill possible, quoi. Voilà, c'est le programme. Et on essaie de faire ça tous les matins, du lundi au vendredi. Voilà. Avant, j'étais parfois empêché par mes activités télévisuelles, notamment par mes tournages de questions pour un champion. Mais il y en a moins qu'avant, voilà, puisque ça passe à la rentrée, ça va passer au week-end. C'est une décision de la direction de France Télévisions. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais avoir plus de temps pour streamer. Voilà. Et que je vais vraiment m'appliquer à être là tous les jours du lundi au vendredi, 9h midi en gros, pour la revue de presse. Voilà. Sauf les 2 semaines de tournage par an de questions pour un champion, parce qu'il ne reste plus que 2 semaines. Et puis éventuellement des impératifs autres. Mais je veux vraiment que ça devienne un rendez-vous, quoi. Il reste 2 minutes d'échange avant de commencer la revue de presse. Que penses-tu du feu dans l'Aude ? Adrien, on va en parler dans un instant. C'est la une de beaucoup de journaux. C'est catastrophique ce qui s'est passé. On va en parler. Ouais, ouais, je sais, Alexandra, bon, le Nightbot n'est pas à jour. Je pense que je vais le faire très vite. Mais j'aimerais bien qu'on regarde le best-of de Mathieu ce soir ou demain. Ça ne t'attriste pas la décision de passer seulement au week-end ? Alors pas pour moi, parce que je suis assez occupé. Caro, mais je suis triste, oui, pour les téléspectateurs de Question pour un champion, pour ce public, pour les équipes qui travaillent sur ce jeu. C'est un jeu en pleine forme qui fait d'excellentes audiences. Qui est un jeu qui n'a pas son équivalent en France. Je sais que ça va laisser orphelin plein de gens qui regardent Question pour un champion depuis des années, parfois depuis des décennies, du lundi au vendredi. Ils n'auront plus que le samedi et le dimanche. Donc je suis triste pour le public, triste pour les équipes. Triste pour moi, non, parce que moi, Je suis assez occupé ailleurs. Mais oui, je suis triste, ouais. Et pour les clubs. Et pour les clubs, ouais. Voilà. Il faut créer ta chaîne de télé. On a fait mieux que ça, User Boninos. On a créé une chaîne Twitch. Et même une chaîne TikTok, c'est encore mieux. Oui, on parle de politique africaine parfois. Enfin, on s'intéresse à l'actualité de tous les continents. Alors, il y a un tropisme français. On parle peut-être un peu plus de l'actualité en France ici que l'actualité internationale. Mais parfois, on est à 50-50, quoi. Après, je note que dans les médias français, la plupart des médias français, il y a assez peu d'articles sur l'Afrique. Ouais. De même que y a assez peu d'articles sur l'Asie et sur l'Océanie, quoi. Et l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, finalement. Ah, c'est quoi que l'Amérique latine ces derniers temps, ouais. Donc, mais ça, c'est dans tous les pays du monde. On s'intéresse d'abord à l'actualité au plus près de soi, quoi. Ok. 30 minutes d'intro, les amis. Est-ce que j'ai votre feu vert? Est-ce que j'ai votre go pour vous faire un petit sommaire, pour vous dire, donner l'essentiel de l'actualité? Est-ce que ça vous va? Ismar, pourquoi tu essaies d'imiter Julien Lepers? Je n'essaye pas. Je pense que si tu regardes Question pour un champion de Julien Lepers et le mien, tu verras que c'est assez différent. Je peux essayer. On peut essayer pour faire plaisir. Est-ce que pour lui faire plaisir, on peut essayer d'imiter Julien Lepers? Vous voulez que je suis pas très fort en imitation de Julien Lepers, mais je peux essayer. Vous voulez? Oui. Ok. Ah oui, oui, oui. Voilà, oui, c'est pas. Je suis pas. J'évite parce que je suis pas très très fort en imitation. Donc effectivement, si on regarde le question pour un champion de Samuel Etienne et de Julien Lepers, c'est assez différent, ouais, malgré mes efforts. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est très très difficile. Tu sais faire qui d'autre? Personne, en fait. Moi, j'imite personne. Hein. Je suis pas Anime, hein, l'excellent Anime, qui est un très bon imitateur, lui. D'autres questions connes? Ou on peut y aller? Allez, c'est parti. Je vous fais un sommaire? Allez, en 5-10 minutes, je vous donne l'essentiel de l'actualité, ok? Avec mes petites notes que je prends le matin. Ouais, il y aura de l'actualité internationale ce matin, il y aura de l'actualité française aussi. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez, amis de Twitch et TikTok, les journaux que je vais vous lire. La première chose dont on parlera ce matin, ok, il y a Eden Blaster qui vient d'offrir 20 abonnements à la communauté. Hugo, un grand merci, merci Hugo de ton soutien. Regardez la une du Parisien. Voilà. La France face au méga feu. Bon, c'est énorme ce qui se passe dans l'Aude. Et pensez ce matin pour les habitants de la région. 2500 pompiers combattent des flammes dantesques, nous dit le Parisien ce matin. Le bilan s'élevait mercredi soir à un mort. C'est une dame qui est restée dans sa maison, qui a trouvé la mort dans sa maison, une dame âgée. Et plus de 16 000 hectares brûlés. Ça, c'était hier soir. À l'heure où on parle, c'est sans doute beaucoup plus encore. Voilà, cet été d'ores et déjà l'un des plus dévastateurs jamais connus. Alors on va se pencher sur les dégâts, voilà, et puis on va essayer de comprendre les causes, comment c'est possible, voilà. Et vous verrez, regardez cet article dans le Parisien par exemple, comment le feu s'est propagé si vite, on a envie de comprendre bien sûr, pour éviter que ça puisse se reproduire. J'ai des potes pompiers qui y sont, me dit Flo à l'instant, quoi. Donc un article dans Libération, souvent je lis plusieurs articles sur un même sujet pour avoir différents regards, différentes informations. C'est la une de Libération aussi. Alors Libération, ce matin, ils avaient un petit bug. Ils avaient un petit bug au niveau du téléchargement. Ça arrive. Ils ont mis un petit message d'excuse. Mais par contre, je vais vous le mettre ici. Bougez pas. Hop. Regardez. Voilà. On le lira ici. Et c'est la une de Libé aussi. Le réchauffement, on le prend de plein fouet. Voilà. Au moins un mort, plus de 16 000 hectares brûlés, 2500 pompiers mobilisés. Un gigantesque feu ravage le sud de la France, du jamais vu depuis 50 ans. Voilà, et il y a un article qui m'a intéressé particulièrement, c'est celui-ci. Voilà. Bon, souvent c'est d'origine humaine, hein, les feux. Hein. Barbecue, cigarettes, la plupart du temps. Mais la question c'est pourquoi un feu d'origine accidentelle va-t-il s'étendre autant, voilà, brûler autant de végétation. Et là, il y a notamment une histoire de règles qui ne sont pas respectées. Voilà, on confirme dans le chat, 90% des incendies d'origine humaine, souvent. Hein. le débroussaillage, un pare-feu naturel trop peu respecté. Cet article de Libération, je le trouve intéressant. Trop coûteux, trop laborieux. En France, seuls 30% des propriétaires habitant une zone de risque incendie défrichent leur terrain, alors que cette prévention est obligatoire pourtant. Voilà, et utile pour lutter contre les sinistres. Donc, vous voyez, il y a des éléments d'explication. Voilà, on lira. On lira ça tout à l'heure. Hop. Ah. Alors, c'est toujours intéressant. Début sur TikTok. Et donc, il y a des petites surprises. Donc là, c'est très intéressant. Donc là, TikTok m'envoie un message. Voilà. Alors que vous êtes quand même 440. Merci d'être aussi nombreux. Visibilité du live restreint. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche car il inclut du contenu non original ou reproduit. Cette décision est conforme au... Donc on va expliquer à TikTok que c'est bien un contenu original, on va leur répondre. Quelque chose d'autre, voilà, et on leur écrit. C'est compliqué TikTok, hein. Ce contenu est bien original. Original produit par moi-même. Attends, le melon quoi. Parce qu'en fait, le reproche c'est ah, c'est pas vous, vous avez piqué le contenu de quelqu'un d'autre. Voilà. En fait, Samuel Etienne vole le contenu de Samuel Etienne. Samuel Etienne. Après, je vais en parler à TikTok France après. Hein. Sur ma chaîne TikTok. Samuel Etienne officiel. Ce brigand de Samuel Etienne qui vole le contenu de Samuel Etienne. Bon, c'est des bots. Hein. C'est des bots. Ils font un peu n'importe quoi. Ce contenu est bien original. Produit par moi sur ma chaîne. Voilà. Puis j'en parlerai à TikTok France. Voilà. Mais du coup, on va être moins exposé, quoi. Et d'ailleurs, depuis qu'on a eu le message de TikTok, là, on a eu une baisse d'audience sur TikTok. Donc, effectivement, ça impacte. Continuons le sommaire. Peu importe, on va pas s'arrêter à ça. Donc, ce matin, je vous parle des feux. Je vous parle aussi de la loi du plomb. Hein. La fameuse loi du plomb. Vous savez qui a autorisé, alors, notamment parce que la loi du plomb c'est plusieurs choses, qui a notamment autorisé le retour d'un insecticide extrêmement controversé avec des conséquences, des effets délétères sur la faune, la flore, et avec d'énormes soupçons quant aux conséquences sur la santé humaine. Voilà. Les opposants à cette loi, qui ont quand même réussi à collecter plus de 2 millions de signatures dans une pétition, je crois que c'est une première fois en France, il y a une décision très importante aujourd'hui du Conseil constitutionnel, voilà, le Conseil constitutionnel qui va dire si cette loi est conforme à nos normes juridiques, et notamment à la Constitution. Il y a un article assez clair dans Libération ce matin, encore Libé, je vous le montre. C'est page... C'est page. Putain, j'ai pas marqué la page. Ah, c'est page 10. Hop, c'est ici. Page 10. Alors, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet ce matin, et vraiment, c'est l'article le plus clair. Qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce que cette loi du plomb va passer le stade des sages ? L'article de Libé est assez clair là-dessus sur ce qui pourrait. Se passer. Il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose et on devrait le savoir a priori aujourd'hui. Je vais vite parce que c'est le sommaire, je ne vous dis pas tout. Donc on développera ça tout à l'heure. Après cette histoire de conseil constitutionnel autour de la loi du plomb, on parlera également de Gaza. On en parle tous les jours. Alors sur TikTok, vous ne le savez pas parce que c'est la première fois qu'on fait cette revue de presse ici. Mais ces derniers temps, on a suivi cette actualité dramatique lié au sort des populations de Gaza et aussi de Cisjordanie avec la colonisation illégale de très nombreux colons. Et on en parle quasiment au quotidien pour essayer de comprendre ce qui se passe et de voir comment ça peut éventuellement évoluer. L'actualité de ce matin à propos de Gaza, c'est, je vous en parle depuis plusieurs jours, mais j'ai trouvé un article que j'ai trouvé assez pertinent. Hop. C'est ça. Voilà, un article dans Le Monde. Israël, quand on dit Israël, comprenez le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, hein, allié à l'extrême droite, agite maintenant la menace de l'occupation de Gaza. Voilà. C'est-à-dire le contrôle militaire total de la bande de Gaza. Ce gouvernement israélien soupèse les options pour la poursuite des opérations dans l'enclave palestinienne. Une telle décision serait un tournant aux conséquences multiples. Plusieurs jours que je lis des articles sur le sujet. Sachez, et je pense que l'article du Monde le dira, que l'armée israélienne, l'état-major israélien s'oppose à cette décision. Voilà, vous verrez pourquoi. Notamment en estimant que ça sert à rien, que le Hamas est déjà totalement affaibli, que les buts militaires de l'opération militaire israélienne à Gaza sont remplis, et que ça n'a aucun sens. Même les militaires aujourd'hui, l'état-major israélien, s'opposent au gouvernement. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il ? On lira ce papier, pour le coup, que je trouve assez clair sur le sujet. Sachez, pour ceux qui sont sur TikTok, que sur Twitch, on parle de ce sujet quasiment tous les jours. Il reste encore trois actualités dont je vous parlerai tout à l'heure. Si vous suivez l'actualité, vous avez entendu parler de la guerre commerciale, des droits de douane décidés par le président Trump vis-à-vis quasiment des pays du monde entier. Et pour la France, a priori, ça rentre en vigueur aujourd'hui. Voilà. Hop. Voilà. Des tarifs encore évolutifs, un petit peu de suspense. Les produits européens exportés vers les États-Unis seront taxés à 15% à partir de ce jeudi, mais la liste des exemptions n'est pas toujours connue. Donc l'info, c'est qu'il y a des exemptions, mais c'est pas très très clair. Quels sont ces produits européens taxés ? Ce qui s'applique dès aujourd'hui ? Est-ce que la France est défavorisée par rapport à d'autres pays ? Voilà. Pourquoi tout n'est pas encore figé ? Pour le coup, l'article du Parisien ce matin est extrêmement clair. Voilà, sachez par exemple, on se demande si les médicaments produits en France par exemple vont pas être taxés à 250% au lieu des 15%. Noah me parle dans le chat de 39% de droits de douane en Suisse. Alors l'économie suisse, qui est une économie qui exporte énormément, elle s'est pas pris 15%. Parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, vous le savez. Elle s'est pas pris 15% comme l'Union européenne, elle s'est pris effectivement, tu as raison, 39%. Ce qui est gigantesque. Je peux vous dire que les entreprises exportatrices suisses, quand on pense à la Suisse, on pense à quoi ? On pense à l'industrie horlogère, par exemple. Je suppose qu'ils exportent surtout du chocolat et d'autres choses. 39%, c'est gigantesque, quoi. Voilà. Donc, on fera un point là-dessus. Autre actualité, je suis dans le sommaire, le budget. Hein ? Alors là, on va aller voir Le Monde. Voilà, c'est la une du Monde et voici l'article. Alors, rappel des épisodes précédents, à la mi-juillet, le Premier ministre François Bayrou a fait un grand discours, une allocution qu'on a réact en direct sur Twitch pour annoncer son projet de budget, les recettes, les dépenses, qui arrivera, le texte, le projet de loi de finances, à la rentrée, à l'automne, au Parlement, hein, dont on a parlé. Baisse de certaines dépenses, hausse de certaines taxes, voilà, abandon par exemple de l'abattement de 10% pour les retraités, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, et là ça devient plus précis encore puisque c'est un projet, hein, et là ce projet il commence à prendre la forme puisque, c'est un peu technique mais c'est très important, le Premier ministre, a fixé les plafonds de crédit pour chaque ministère, donc dans le détail maintenant de chaque ministère, santé, éducation, armée, on connaît ce qui va être dépensé. Ce qui est prévu d'être dépensé pour être précis. Puis après, parfois, il y a les arbitrages en cours d'année. Les dépenses militaires vont nettement progresser, tout comme la charge de la dette. Ça, c'est un sujet important dont on parle souvent. Et les autres vont globalement baisser. Donc, on va voir ça en détail. Sachez que
ce n'est toujours qu'un projet, un projet de loi, un projet de loi de finances. Après, il faut qu'il soit débattu et voté par le Parlement. On sait que le gouvernement Bayrou peut tout à fait chuter à la rentrée prochaine et sauter, quoi. S'il n'y a pas de majorité, s'il y a une motion de censure. Voilà. Donc, bonjour aux Belges qui nous rejoignent. Nouvelle vidéo du grand YouTuber. Très bonne question de d'or, puisque effectivement François Bayrou a posté une vidéo sur YouTube pour expliquer de convaincre, pour essayer de convaincre tout le monde. François Bayrou, le YouTuber. Voilà. Est-ce qu'il me reste un dernier sujet? Oui, un peu plus léger. La série Mercredi, ça vous parle? Hop, c'est dans Le Parisien. Ici, c'est page 22, Mercredi. Vous voyez que l'actrice incroyable. Là, ici, la série Mercredi sur Netflix. Voilà, Mercredi Addams. Netflix fait revenir la famille Barré des Addams. Ouais, c'est la série Mercredi avait un succès fou. Pas vu, moi, je suis pas un grand consommateur de séries, je manque un petit peu de temps, mais Jenna Ortega. Ouais. Actrice incroyable. Mais je m'étais régalé de cette première saison, et il y a une deuxième ici. Peut-être qu'on ira voir un petit trailer ensemble. Voilà pour le sommaire. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Donc ça, voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous jusqu'à midi, midi 30, vous avez l'essentiel de l'actualité. Alors vous n'avez pas les précisions des informations, les analyses des journaux, les échanges que nous allons avoir là-dessus. Mais comme ça, vous avez l'essentiel. Et maintenant, on va lire tous ces articles. C'est un peu le principe. Voilà. Ça vous va? Ok. Top. Toujours une petite fin réjouissante avec une triste actualité. Oui, alors c'est le problème avec les médias. Les médias vous rapportent ce qui ne va pas. Le journaliste rapporte ce qui ne va pas. Le train qui arrive à l'heure, c'est pas une info parce que le train est censé arriver à l'heure. Le train qui déraille, c'est une info parce qu'il n'est pas censé dérailler. Alors le problème de ça, merci El Camino pour le Prime, merci Mato pour le Prime, merci Hazard01 pour l'abonnement offert à la commu, merci encore Eden Blaster. Le problème de tout ça, c'est que du coup, les médias, c'est souvent une compilation de mauvaises nouvelles. Voilà. Et le reproche que l'on fait parfois, et il peut être justifié, c'est qu'on ne parle pas assez des choses positives. Parce qu'un train qui arrive à l'heure, certes, ce n'est pas une info, mais dans notre société, dans notre monde, il y a aussi des choses, des initiatives d'individus, d'associations, d'entreprises, que sais-je, positives. Et peut-être que les médias, effectivement, exposent pas assez ça. Voilà. Après, quand on cherche, parce que moi, c'est un exercice que j'essaie de mener en ayant entendu ce reproche, quand on cherche, on trouve dans l'actualité, dans les journaux que je lis par exemple, ce qu'on pourrait présenter comme des bonnes nouvelles. Mais l'esprit humain est ainsi fait que parfois il s'intéresse plus au drame, à la catastrophe, à ce qui ne va pas. Et moi-même, je dois reconnaître que parfois je vois des articles que je pourrais mettre en avant parce que ça parle de choses positives, mais voilà, je me dis bon, c'est positif, c'est très bien, tant mieux quoi. Voilà. Donc, est-ce que le journaliste est un pessimiste quelque part? Oui. Les bonnes nouvelles, ça fait pas vendre, Sam. C'est pas faux. Voilà. Donc, j'essaie de trouver parfois des infos comme ça, mais je pense que moi-même, je ne les expose pas assez. Voilà. Après, je ne veux pas non plus qu'on me reproche, qu'on me fasse le reproche inverse en disant, dis donc, ça va le journal des bonnes nouvelles, le journal des bénis oui. Hein, tu ne nous parles que des choses positives et légères, alors que les gens meurent de faim, alors que les gens meurent sous les bombes, alors qu'il y a des gens qui sont au chômage, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de protection sociale. Tu vois, c'est l'autre écueil aussi. Donc j'essaie de trouver un équilibre entre tout ça. Mais c'est une très bonne question. Exactement. Ron Sitter. Il se passe tellement plus de choses négatives que positives. Non, en fait, il se passe beaucoup plus de choses positives que négatives dans notre monde. Caro. Mais ce que les médias... L'image que les médias... Parce que le drame fait vendre. L'image que les médias te renvoient du monde est une image globalement négative. Voilà. Dans votre quotidien, si vous avez la chance d'avoir une vie qui n'est pas trop éprouvante, parce que parfois la vie... vous réserve aussi son lot de drames dans votre quotidien, dans vos relations avec vos proches, votre famille, vos amis, vos passions, votre travail. Il y a sûrement plein de choses positives. Voilà. Beaucoup moins anxiogènes que la marche du monde telle que les médias vous les décrivent, quoi. Les médias sont un miroir déformant de ce qui est de l'état du monde, quoi. Comme dit Defecator, qui est un spécialiste de la lutte contre les fake news sur Internet, dans une excellente chaîne YouTube et une chaîne Twitch, à l'instant, on parle moins des trains qui arrivent à l'heure, mais heureusement, il y en a. Voilà. Peut-être que la santé mentale des jeunes irait mieux si oui, tu as raison. On a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes hier. Tu l'as en replay sur Twitch et sur YouTube, puisque c'était la une du Monde et de Libération, une grande enquête sur la santé mentale des jeunes en France qui se détériore depuis quelques années, quoi. Donc tu l'as en replay, ça, et on en a parlé très longuement hier. Voilà. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la revue de presse ? Maintenant qu'on a fait le sommaire, on y va ? C'est parti ? Eh ben on y va. Alors on commence donc par les incendies dans le sud. Je vous mets la scène. On va commencer avec le Parisien. Voilà. C'est dramatique ce qui se passe là. Dans l'Aude, la France face au méga feu. Voilà. 2500 pompiers, nous dit le Parisien ce matin, combattent des flammes dantesques. Le bilan s'est élevé mercredi soir à un mort et plus de 16 000 hectares brûlés. 16 000 hectares! Hier matin, qu'on est allé voir, on était à 12 000, 13 000 hectares, 16 000. Ça, c'était hier soir. Ce matin, c'est sûrement encore un peu plus. Un mort, c'est une dame âgée dans sa maison, seule. Cet été est d'ores et déjà l'un des plus dévastateurs jamais connus. Voilà. Alors, je ne vous lis pas tous les articles. Je vous lis une partie des articles. Et si vous voulez en savoir plus sur telle ou telle actualité, vous n'hésitez pas à acheter ces journaux si vous pouvez le faire, bien sûr. Alors je vous lis quelques extraits de ce papier. Le méga feu qui dévaste depuis mardi après-midi le massif des Corbières dans l'Aude n'a pas faibli pendant la nuit. Au petit matin, mercredi, le compteur affichait près de 11 100 hectares parcourus par les flammes. En milieu de matinée, il atteignait les 13 000 hectares. En fin de journée, 16 000 hectares. La progression, la rapidité de ce feu, c'est juste fou, quoi. Voilà. Merci Ironoa pour le soutien. Merci El Camino. Plus que la surface de Paris. 16 000 hectares, c'est plus que la surface de Paris. Et il courait toujours mercredi soir, le feu avançait à 6 km/h. Hein, on dit qu'un piéton qui marche d'un bon pas, il marche à 5 km/h. Hein, vous imaginez ? Donc vous marchez à 5 km/h d'un bon pas, hein, voilà, et vous avez le feu qui avance à la même vitesse que vous, voire un peu plus vite. 6 km/h. Ce qui est fou, résume Xavier de Volonta, qui est le maire de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, commune la plus touchée des 15 affectées dans l'incendie où le poste de commandement des 2500 pompiers actuellement sur le terrain a été installé. Dans ce village de 700 habitants, une dame de 65 ans qui avait refusé d'évacuer mardi soir, c'est elle qui a été retrouvée morte, a été retrouvée morte dans sa maison. Le vrombissement des canadaires et hélicoptères Bombardier 2 qui tournent au-dessus des collines est ininterrompu. Devant les ruines de sa maison en cendres, Jean-Louis Villa ne laisse pas gagner par l'émotion quand il relate cette nuit de mardi où il a tout perdu, puisqu'il y a cette dame qui a perdu la vie, mais il y a aussi des gens qui ont tout perdu matériellement. Sa voiture de collection, le monsieur avait une voiture de collection, disparue. Ses sculptures fondues, les palmiers si chers à son cœur, grillés sur pied. Avec un simple tuyau d'arrosage, on n'arrête pas un feu de 800 degrés poussé par des vents de 70 km/h, soupire le septuagénaire, ancien président des jeunes agriculteurs de l'Aude. Et avec l'ester de bois que je venais de rentrer, le feu a dû se régaler, il y a tout à recommencer. Si le feu a pris une telle ampleur, c'est qu'il a suivi tous les chemins non entretenus. Et là, on est sur le début de la compréhension de comment ce feu a-t-il pu prendre autant d'importance. Hein. Si le feu a pris une telle ampleur, donc là, on essaie de comprendre les causes Si le feu a pris une telle ampleur, c'est qu'il a suivi tous les chemins non entretenus, les bords de ruisseaux, les lits de rivières non débroussaillés dans le secteur, fulmine son beau-fils Xavier, sans masquer sa colère face à l'ampleur de la catastrophe. Puisqu'on le verra dans un article tout à l'heure, je crois, dans le Figaro. Non, c'est pas dans le Figaro. Dans Libération, il y a une obligation légale d'entretien des broussailles, et en fait, par manque de moyens ou par des intérêts, en fait, cet entretien obligatoire n'est pas effectué, quoi. Tout autour de la commune Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, le feu reste tapis dans la garrigue, prêt à ressurgir au moindre coup de vent, et les montagnes alentour exhalent partout leur fumerole blanche et noire. Olivier, sapeur-pompier originaire de Lézignan-Corbière, a vu de ses yeux 2400 hectares de forêt partir en fumée en l'espace de 10 minutes. Les anciens à Narbonne disent qu'ils n'ont jamais vu ça depuis plus de 50 ans. C'est l'incendie du siècle pour ce pompier. Le paysage est lunaire, la terre est calcinée sur des kilomètres, comme si on évoluait sur les pentes d'un volcan récemment entré en éruption. On parlait de 16 000 hectares tout à l'heure. Imaginez la surface de Paris, hein, totalement brûlée comme ça. Contrairement aux Landes où tout était plat, ici c'est très vallonné, abrupt, parfois difficile pour nous d'intervenir, expliquent les pompiers, notamment des pompiers de Besançon qui sont venus en renfort. Vive la Franche-Comté. Évidemment, il y a les entreprises de la région et aussi les agriculteurs hein, qui peuvent être touchés aussi. Chez Pioc, on dit la vitesse de propagation du feu a été très bien expliquée. Vent, un vent très fort, végétation, un manque d'entretien et relief, exactement. Bon, les touristes en vacances aussi dans la région. Je ne vous lis pas tout l'article, vous irez lire si ça vous intéresse. C'est dans Le Parisien, ce matin, page 3. Ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi du comment. D'abord, constater que... regardez, il y a un graphique ici, là, dans Le Parisien. Ça, c'est la fréquence et la gravité des incendies depuis 10 ans. En orange, vous avez la superficie brûlée en hectares. En bleu, les petits ronds bleus, le nombre de feux. Et on voit que ces dernières années, en 2017, 2021 notamment, 2023, 2025, par rapport au début de la décennie, il y a vraiment eu une augmentation, quoi. Voilà. Trois ans après le terrible été 2022, qui avait vu se consumer les forêts de pins de Gironde et des Landes, je pense que vous vous en souvenez, pendant de longues semaines, la saison 2025 des incendies est déjà l'une des plus dévastatrices du siècle. Comment les reliefs influent-ils sur la propagation ? En fait, d'après ce que je comprends, c'est que du coup, les pompiers ont des difficultés à y accéder. Quand ils disent la surface de Paris, c'est intramuros ? Oui, je pense que c'est intramuros. Une nuit de flammes est déjà un triste record. En à peine 24 heures, l'incendie qui ravage le département de l'Aude a déjà avalé près de 16 000 hectares. Fait un mort et deux blessés graves. Je crois qu'hier soir, il y avait une personne qui était... Hier matin, il y avait une personne qui était entre la vie et la mort. Détruit 25 habitations notamment. Comme le note la ministre de la Transition écologique, c'est comparable à la surface totale de ce qui a brûlé sur toute la France en 2024. Toute l'année 2024. Et plus de deux fois la surface de 2023. Cet incendie, on l'a déjà dit, frappe surtout par sa vitesse. Au-delà du vent qui est très présent, c'est surtout l'accumulation de végétaux morts liés aux sécheresses des années passées qui l'explique. Détail un monsieur qui est chargé de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE, pour ceux qui connaissent. Cet incendie dans l'Aude, gigantesque, intervient après une saison déjà très active sur le front des incendies. Depuis le 1er janvier, l'Institut européen de surveillance Copernicus a dénombré 239 feux de forêt en France qui ont consumé 34 000 hectares, faisant de 2025 la troisième pire année de ce siècle, derrière 2022 et 2019. Dans le mix de ce qui vient de se passer dans l'Aude, sécheresse intense, il n'y a pas que le débroussaillage, faible pluviométrie, hein, forte température vent, voilà, et humidité basse. Alors on n'est pas les seuls, la France n'est pas la seule touchée, le Portugal, 40 000 hectares ont brûlé depuis janvier. Voilà. En Espagne, les pompiers bataillent en ce moment même avec un important feu du côté de la station balnéaire de Tarifa, en Andalousie. Voilà. Ils ont été mobilisés ces dernières semaines aussi en Extrémadure, en Catalogne, dans le centre-ouest du pays. Incendie titanesque également en Grèce et en Turquie. Et attention, parce que les températures vont continuer à remonter en France, là, notamment dans le sud-ouest, dans les prochains jours. Donc on a très très peur que ça se poursuive ou que ça se propage à d'autres régions. Une chose est sûre, écrit le Parisien ce matin, il faudra s'habituer à ces étés à lutter contre les flammes. En 2022, on avait vu des feux de forêt dans 90 départements français. Cela deviendra la norme d'ici à 2050 avec une saison propice au feu qui s'étendra. Alors, il y a un petit décryptage signé Nicolas Béraud dans le Parisien sur comment le feu a pu se propager aussi vite. Voilà. Ça fait un peu froid dans le dos. Imaginez-vous en train de marcher avec des flammes qui progressent au même rythme derrière vous et vous suivent à la trace. On parle d'un front d'incendie qui progresse à 5-6 km/h, ce qui est énorme. Cela vous donne une idée de la vitesse hors norme à laquelle le feu de forêt et de végétation dans l'eau a progressé mardi en fin de journée. L'incendie s'est déplacé au rythme d'environ 5 km/h. Vitesse moyenne de la marche pour un humain, c'est déjà un bon rythme. Et même 6 km/h selon certaines sources. Une bombe qui a déjoué tous les pronostics, disent les responsables des secours, on a dépassé la vitesse des feux de 2023 dans le Var. Effectivement, s'il y a du relief, tu vas encore moins vite. Ouais. L'allure des flammes dépend de plusieurs facteurs, à commencer par le vent, bien sûr. De façon générale, on considère qu'un feu de forêt se propage à une vitesse allant de 3 à 10% de celle du vent. Voilà. Et on avait dans l'eau des rafales de tramontane qui atteignaient 50 à 60 km/h. Voilà. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer un feu qui avance aussi rapidement, nous dit le Parisien. Tout dépend aussi du taux d'humidité des sols. Or, cette zone de l'Aude figurait parmi les régions les plus sèches du pays au début de l'été. Voilà. À Carcassonne, préfecture du département, le cumul depuis le début de l'année est inférieur de 25% à la valeur moyenne. Après une année 2024 déjà très déficitaire en précipitations. Donc il y a le vent, il y a les sols extrêmement secs, la sécheresse. Enfin, la vitesse de propagation, nous explique le Parisien, varie selon le type de surface ravagée par les flammes. Elle sera lente dans les tourbières qui se consument, à contrario plus importante sur des feux de surface qui brûlent les herbes, les buissons, davantage encore sur les feux de cime des arbres. Et malheureusement, les végétaux calcinés dans l'Aude, garrigues, broussailles, pinettes, sont de redoutables combustibles. Vent, sécheresse et type de végétation. Pour ne rien arranger, le paysage est souvent vallonné. Or, le feu accélère dans les montées par effet de convection. Ça, je l'ignorais. Les particules brûlantes remontent en l'air, puis portées par le vent, elles atteignent plus rapidement des zones situées à l'avant. Donc, tout à l'heure, on parlait du relief comme effet aggravant en raison de le difficile accès des secours. Pas seulement, en fait. Pas seulement. Merci Firmuche. Merci pour ton message et force pour le boulot. Merci pour le 10e mois. Merci Timothée. Merci Alwin Silkagon pour le Prime. Voilà. Alors il y a un autre, dossier ce matin dans Libération que je voulais vous montrer. Là on va passer par contre. Ici. Voilà. Libé. C'est la une de Libé aussi, regardez. Hop, hop, hop. Salut, Podzob. Joli pseudo. Le réchauffement, on le prend de plein fouet. C'est la une de Libération. Ce matin, voilà. Que dit l'édito ici d'Alexandra Schwarzbrod? Un édito, je rappelle, c'est un article où le journaliste donne son avis ou propose une analyse. Prend un peu de recul par rapport aux faits. C'est une analyse, elle peut être érodée, mais elle peut être juste également. Il peut être tentant, écrit Alexandra Schwarzbrod ce matin dans Libération. Ah, attendez, elle est bizarre la scène là sur... Ah oui, excusez-moi pour l'article sur Twitch, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Il est peut-être tentant donc de mettre ce feu sur le compte des catastrophes récurrentes de l'été. Hein. Bon, certains dans le chat l'ont peut-être dit, ah bah oui, c'est normal, c'est l'été, il y a la chaleur, la sécheresse, le vent, la conséquence des vacanciers, hein, et de passer à autre chose en disant, bon, ben voilà, c'est comme d'habitude, c'est pas grave, quoi. Ce serait une grave erreur, nous dit Libération. Le feu n'est ni une fatalité ni une punition divine, il peut être évité, le feu. Hein. Contenu, combattu, mais pour ça, il faut des moyens humains et financiers, une implication des élus et habitants locaux concernant les moyens, ou plutôt le manque de moyens. Pour le coup, le sujet revient chaque année ou presque, ce qui est anormal. Mi-juillet, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers appelait dans l'IB un sursaut de l'État pour renforcer les moyens de lutte, et notamment les équipes qui manquent de bras. L'été, au plus fort de la saison des feux, les habitants, eux, peuvent éviter qu'un incendie se répande en débroussaillant. Voilà, on va lire un article là-dessus. La méthode a prouvé son efficacité, et pourtant moins d'un tiers des propriétaires en zone à risque y a recours. Donc déjà, on a une solution, on connaît une solution, mais elle n'est pas appliquée, pas suffisamment, le débroussaillage. Idem pour les matériaux utilisés pour les constructions ou leurs abords, ils doivent résister au feu, tout comme les espèces d'arbres plantés, cela paraît presque élémentaire. Si rien n'est fait, des incendies monstres comme celui de l'Aude risquent de se produire chaque année avec le dérèglement climatique. Si on s'y prépare maintenant, on peut les éviter, au moins limiter leurs dégâts. Nous ne sommes pas impuissants par rapport à ça. À un moment, Libération dit, j'ai sauté la phrase ici, les municipalités ont un rôle plus coercitif à jouer quant aux obligations de débroussaillage. Quoi. Voilà. Hop. Ah bah voilà, c'est mieux là. Ah, c'est mieux pour les. Ah, c'est mieux, la mise en page est mieux là. Voilà, débroussaillage par feu naturel trop peu respecté. Voilà, oui. Donc là, ce n'est pas que la faute à pas de chance, quoi. Il y a un nouveau bilan ce matin. Je suis sûr que ce matin, il y a un nouveau bilan. Non, on est toujours à 16 000 hectares ou on est encore à, ou on est à plus. Je ne sais pas si vous avez l'info dans le chat. Hop. hectares toujours, d'accord. Ok. Qu'est-ce que ça représente de façon imagée 16 000 hectares d'après certains médias ce matin, c'est la surface totale de Paris. Je suppose Paris intramuros, quoi. Parce que la région parisienne, c'est encore c'est beaucoup plus important, quoi. 13 blessés, dont 11 pompiers. Force aux pompiers, hein. Pensez pour les habitants de la région, pensez pour les gens qui sont touchés, voilà, dont les habitations sont touchées, pensez aux soldats du feu, aux pompiers mobilisés, 11 blessés parmi les pompiers. Quoi. Débroussaillage effectué par qui, demande Kate, propriétaire des zones concernées ou les mairies? Le débroussaillage, il doit être fait par les propriétaires des zones concernées. Oui Pierre, on est sur Twitch et sur TikTok. Tout à fait. Non. Pour bien voir, me dit Eternalis, ouvrez Google Maps, cliquez sur le feu, vous verrez la zone approximative qui couvre une bonne partie du département. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais. Donc, on va suivre cette actualité, bien sûr. Et demain matin, on fera un nouveau point. Voilà. Merci, Lindapi. Alors, deuxième actualité dont je vous parle ce matin. C'est la loi du plomb. Ah ! La loi du plomb. La loi du plomb dont on a beaucoup parlé cet été ici, même avant, puisque cette loi du plomb était en préparation depuis un moment. La loi du plomb, loi controversée, souhaitée, portée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Duplomb, qui est un agriculteur, hein, qui est quelqu'un qui est proche de la FNSEA, qui est plutôt, donc, plutôt proche des exploitations agricoles importantes, plutôt que des petits paysans, pour résumer. Hein. Et une loi controversée pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle réintroduit un insecticide controversé, voilà, qui fait des ravages notamment contre les abeilles et qui est soupçonné par de nombreuses études scientifiques de causer également des dégâts sur la santé humaine. On a lu plein d'articles et de dossiers sur le sujet. Loi du plomb qui a été adoptée par le Parlement sans vraiment un débat puisque les partisans de ce texte ont utilisé une petite entourloupe dans le règlement pour que finalement il n'y ait pas de débat, estimant qu'il y avait eu trop d'amendements déposé par l'opposition. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment eu de débat à l'Assemblée sur le sujet. Par contre, elle a été votée. Sur ce, je résume les épisodes précédents, une pétition a été signée par plus de 2 millions de personnes en France pour demander le retrait de... via la motion de rejet, exactement, AMG, de ce texte. Voilà. Et espoir des partisans, des opposants à ce texte, une décision aujourd'hui du Conseil constitutionnel. 2 millions, c'est beaucoup. 2 millions, c'est énorme. Mathis, tu as raison. Le Conseil constitutionnel, qui veille à la constitutionnalité des lois, au fait que la loi doit respecter toute une hiérarchie des normes où il y a la Constitution, mais pas seulement d'ailleurs, Déclaration des droits de l'homme, etc. Et donc le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des opposants à cette loi doit rendre son jugement, sa décision plutôt, je crois, pour le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un article ce matin dans Libération qui est extrêmement clair sur le sujet. Donc je vous remets Libé, c'est page 10. Voilà. Et le sujet est assez clairement expliqué dans Libé. Voilà. Hop, je vous le mets ici. J'ai signé perso, me dit Hiro Ronoa. Voilà. Je vous lis l'article. La loi du plomb va-t-elle passer le stage des sages, hein, les sages de la loi, les sages du Conseil constitutionnel, c'est comme ça qu'on les appelle. Je crois qu'ils sont 9 membres. Alors qu'une pétition contre la loi a recueilli plus de 2 millions de signatures, le Conseil constitutionnel, saisi par des élus de gauche, doit se prononcer ce jeudi sur la conformité du texte avec la Constitution. Une décision particulièrement attendue. Voilà. Donc on voit cet article qui est assez bien fait. Ah, Libération, des petits problèmes informatiques ce matin. ils se sont excusés. Ils sont excusés, Libé, mais ils ont des petits problèmes informatiques. Ah, c'est pas grave, on va lire comme ça. C'est pas grave du tout, ça. Alors, question importante. Attends, bougez pas, je vérifie un truc. Ça marche. Le Conseil constitutionnel. Ah, pourquoi c'est bloqué chez vous ? Le Conseil constitutionnel peut-il faire tomber la loi du plomb ? Depuis son adoption définitive au Parlement le 8 juillet, je vous en parlais, le texte porté par les sénateurs Laurent Duplomb, hein, le monsieur qui est agriculteur, et Franck Menonville, UDI, est contesté de toutes parts. Ça, vous le savez. Outre le succès d'une pétition citoyenne qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, certains sont signataires dans le chat, les parlementaires de gauche ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur cette loi qui réintroduit sous condition trois substances de la famille des néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, ce puissant insecticide, décrié pour sa toxicité avérée sur la biodiversité, ça c'est prouvé scientifiquement, et probable pour la santé humaine, puisqu'en matière scientifique, bah, il faut des études, des enquêtes, de la recherche pour affirmer les choses. De nombreuses études scientifiques estiment qu'il y a de très forts soupçons de conséquences négatives de cet insecticide sur la santé humaine, mais pas de preuves formelles. C'est ce qu'on appelle Libération ici. D'aucuns disent que, en pareil cas, c'est le principe de précaution qui devrait s'appliquer pour protéger la santé des citoyens. Trois recours donc ont été déposés devant le Conseil constitutionnel courant juillet par 120 députés et 60 sénateurs socialistes, écologistes, communistes et insoumis devant la haute institution chargée d'évaluer la conformité des textes législatifs, ce que je vous expliquais. Puis Camille me dit dans le chat qu'on saura ce soir après 18h, donc on le savait que demain matin on pourra en parler. Voilà. Tous estiment que la loi du plomb ne respecte pas la Constitution française sur le fond comme sur la forme. Bougez pas. Libé est un petit peu chafouin ce matin. Voilà. Voilà, ça c'est important. Donc, les gens qui ont saisi le Conseil constitutionnel estiment que la loi ne respecte pas la Constitution sur le fond comme sur la forme. On va voir dans le détail pourquoi. Et Camille a raison, les neuf sages vont rendre leur décision ce jeudi et ils pourraient censurer le texte totalement ou partiellement. Voilà. Et inversement, le valider entièrement ou que partiellement. Avant même de s'attaquer au cœur de la loi, la gauche condamne la manière dont ce texte a été adopté. Si le Sénat, dominé par la droite, a pu débattre et voter sans difficulté, à l'Assemblée nationale, le député et rapporteur du texte a brandi une motion de rejet préalable pour le renvoyer en commission mixte paritaire. Une instance dominée par les groupes soutenant le texte. De leur propre aveu, les partisans de la loi Duplomb ont utilisé cet outil qui est prévu par le règlement de la Chambre basse. Je vois plein de questions sur le Conseil constitutionnel. Excusez-moi, je lis l'article et je répondrai à vos questions après. Pour ceux qui s'indignent déjà de certains aspects, attendez peut-être d'avoir toutes les informations avant de partir en débat, parce que ça part un petit peu vite là. Ont utilisé cet outil prévu par le règlement de la Chambre basse pour contrer l'obstruction parlementaire, puisqu'il y avait 3500 amendements qui avaient été déposés par l'opposition. C'est... Alors bon, je vous lis pas tout. Donc déjà, les opposants disent il y a eu un tourloupe, quoi, pour empêcher le débat. Voilà. Certains constitutionnalistes disent qu'il y a eu un détournement de la procédure. Voilà. Donc, il y aurait un motif matériel et sérieux pour censurer la loi, déjà. Parce que de la manière dont cette loi a été adoptée, le Conseil constitutionnel pourrait estimer que ça pose problème. Dominique Rousseau, constitutionnaliste, estime par exemple qu'il y aurait un motif matériel sérieux pour censurer la loi. Pas sur le fond. De toute façon, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le fond. Mais déjà sur la manière dont elle a été adoptée. Par le passé, le Conseil constitutionnel a déjà validé l'utilisation au Sénat d'une telle procédure, rappelle une députée écologiste, mais nous ne sommes pas dans le même cas de figure, parce que cette fois, il n'y a eu aucun débat, ni première lecture, ni discussion générale. Voilà. Donc les sages du Conseil constitutionnel pourraient opter pour cette voie de censurer la loi au nom de la défense des droits du Parlement, qui n'ont pas été respectés, sans trancher sur le contenu du texte, qui est hautement politique, bien sûr. Ça, c'est sur la façon dont la loi a été adoptée. Sur le fond, la gauche, qui a saisi le Conseil, le questionne également sur la réintroduction par dérogation de 3 pesticides controversés. Donc, ils sont nommés ici par Libération. Ils interrogent aussi les dispositions de la loi qui facilitent l'agrandissement des élevages agricoles et l'installation des retenues d'eau, hein, parce que la loi ne parle pas que des insecticides, l'installation de ces méga-bassines aussi au nid des écologistes. À ce titre, les auteurs de la saisine s'appuient principalement sur la charte de l'environnement. Hein, je vous le disais, le Conseil constitutionnel doit veiller à la constitutionnalité des lois, le respect des lois de la Constitution, mais pas seulement, de ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité, si je me rappelle bien de mes cours de droit constitutionnel, qui intègre d'autres textes, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Hein, et là, les gens qui ont fait cette saisine estiment que le texte ne respecte pas la charte de l'environnement, adoptée en mars 2005, partie intégrante de la Constitution, moi j'appelle ça le bloc de constitutionnalité, et dont le premier article dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Intéressant. Un droit bafoué par la loi Duplomb, arguent les parlementaires de gauche. Voilà. Mais, rappelle Libération, qui a plutôt bossé sur le sujet, aucune loi n'a jamais été censurée par le Conseil constitutionnel sur la base de cette charte de l'environnement. Idali, bestrisotose, firmuche, merci pour vos soutiens. Voilà. Concernant les pesticides, le Conseil constitutionnel a reconnu que les néonicotinoïdes posaient un risque pour la biodiversité dans une décision rendue en 2020, note toutefois un avocat. Donc l'article est très détaillé, je vous laisserai aller le chercher dans Libération aujourd'hui, s'il vous intéresse. Donc, la manière dont la loi a été adoptée, le non-respect de la charte de l'environnement intégrant pourtant le bloc de constitutionnalité. Autre point de discorde, nous rappelle Libération, qui est assez clair ce matin, la loi Duplomb laisse le soin à la justice de se prononcer sur la pertinence, ça c'est un peu étonnant, de la réintroduction des néonicotinoïdes en permettant aux opposants d'attaquer les décrets. L'exécutif en fait l'un de ses principaux arguments pour prouver la constitutionnalité de la loi. Tout décret pourra faire l'objet de recours, écrit-il. C'est paradoxal, on revient sur les interdictions, mais on le fait sous le contrôle d'un juge qui nous dira a posteriori si ce qu'on fait est bien. Voilà. On donne une place trop importante au judiciaire parce que la loi est mal faite, estime un sénateur écologiste. C'est intéressant. Alors, est-ce que les sages du Conseil constitutionnel vont censurer la loi, totalement ou partiellement ? Impossible, écrit Libération ce matin, de prédire quel scénario les sages vont privilégier. Dans ses observations, le gouvernement a tendu plusieurs perches au Conseil constitutionnel en lui proposant d'émettre des réserves d'interprétation sur la loi du plan, c'est-à-dire de la rendre constitutionnelle à certaines conditions dictées par l'institution elle-même, histoire d'obtenir quelques compromis. D'après... Delphine Bateau, l'élu écologiste, cette décision du Conseil attendue pour aujourd'hui a priori aux alentours de 18h est décisive et porte bien au-delà de la loi du plomb, décisive notamment pour la charte de l'environnement. Est-ce qu'une simple proclamation de bonne volonté, cette charte, ou est-ce qu'elle protège de façon effective les droits des citoyens et ce alors que, selon un récent avis de la Cour internationale de justice, les manquements d'un État sur la protection de l'environnement sont désormais un fait internationalement illicite. Voilà. Bon. Pardon, j'ai pris le temps de lire l'article parce que je voulais vous donner toutes les infos, mais maintenant je vous lis un petit peu parce que je vous ai un peu laissé de tomber dans le chat pendant la lecture de cet article. Je vous lis. Voilà, on parlait des soupçons de plusieurs études scientifiques sur la dangerosité pour... la santé humaine. User Binounours nous dit quand on ne sait pas, on n'autorise pas, c'est pas compliqué. Le principe de précaution, quoi. Salut Daniel, merci beaucoup pour ton message. Très éclairant. Canard Artichaut, je suis d'accord avec toi. L'article de Libé sur un sujet un peu complexe, je le trouve très très clair sur ce qui peut se passer aujourd'hui. Ouais. Bon anniversaire à M qui fête ses 18 ans aujourd'hui. 18 ans important. Aloha aussi, Bob Moran. Par contre, importer des produits hors EU sans normes, aucun problème, me dit Nipsen. Quels seraient les bienfaits? Pourquoi est-ce proposé Flotto? Alors, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, mais la loi est demandée par certaines filières, notamment les producteurs de betteraves et de noisettes, parce qu'ils estiment avoir besoin de cet insecticide. Merci du reçu pour le raid, pour protéger leur culture. Voilà. Alors ceux qui ne sont pas d'accord avec ça disent qu'il y a d'autres traitements alternatifs. Les agriculteurs en question, parce que c'est pas tous les agriculteurs, hein, répondent c'est pas vrai, ils sont moins efficaces, c'est plus compliqué, on prend le risque de perdre 20-30% de nos revenus. Ce à quoi répondent par ailleurs encore les opposants à ce texte, la betterave c'est pour fabriquer du sucre essentiellement ou des biocarburants. Est-ce que la France a vraiment besoin d'être un pays autant producteur de betteraves, puisque je crois que la France est l'un des plus gros producteurs européens de betteraves, peut-être même le premier. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voilà. Ses opposants dénonçant la logique finalement financière de cette culture de la betterave. Je vous cite les arguments que j'ai entendus, quoi. C'est ce que résume Keboub en disant c'est dingue de privilégier l'argent, le bénéfice à la nature littéralement, quoi. Premier Europe, deuxième monde, c'est pas impossible, on est un très gros producteur de betteraves. Il faut privilégier la santé, me dit Purple. Salut Staff le misanthrope. twineux. Si tu tapes point d'exclamation RDP dans le chat sur Twitch, tu auras les infos là, pour la question que tu te poses sur pourquoi je lis ces journaux et pourquoi pas d'autres. Voilà, donc ben, écoutez, on attend cette décision en fin de journée aux alentours de 18h du Conseil constitutionnel. Voilà. Sinon, merci Black Echo. Sinon, il y a une autre hypothèse. La Constitution donne le droit au président Macron de ne pas promulguer cette loi pour qu'elle ne puisse pas s'appliquer. Ça a déjà été fait dans le passé, notamment le contrat première embauche, je crois, il y a très très longtemps, contrat de travail qui avait été inventé pour je ne sais plus quel gouvernement pour les jeunes. Et la loi n'avait jamais été promulguée, elle ne s'était pas appliquée. Et le président Macron peut demander une nouvelle délibération, un nouveau vote sur cette loi. Et c'est dans ses pouvoirs. Bon, alors est-ce que le président Macron... C'était Chirac à l'époque, le... Voilà, c'était Villepin qui avait voulu le CPE, et le président, c'était le président Chirac. Voilà, le gouvernement, c'était Villepin. Merci, vous êtes super. Voilà. Mais c'est marrant parce que les deux chats me donnent l'info. Bravo Carlos sur TikTok. Merci, merci Marie, merci MMG, merci Pacre sur Twitch. Voilà. Donc, le président Macron a aussi ce... Mais si le Conseil constitutionnel ne censure pas, si le président Macron n'utilise pas ce pouvoir, ben, la loi va s'appliquer, quoi. Pour dire les choses. Ce serait un bon moyen pour le président de se refaire une image pour les électeurs, mais par contre, il se mettrait les députés à dos. Les députés qui ont voté le texte, oui, sans doute une partie des agriculteurs aussi. Voilà. Bon. À surveiller donc. Allez, autre article ce matin. Est-ce qu'on va sur l'actualité internationale ? Oui, on va sur Gaza. On va sur la Palestine. Bon, c'est un sujet qu'on évoque quotidiennement cette revue de presse pour essayer de comprendre ce qui se passe là-bas et comment éventuellement peut être mis fin le plus rapidement possible à l'horreur de ce qui se passe contre les populations civiles de Gaza. Un article ce matin que j'attendais avec impatience puisque ça fait plusieurs jours que je suis cette actualité, mais j'attendais un article un peu carré, un peu clair là-dessus sur le dernier projet du gouvernement israélien, gouvernement Netanyahou avec l'extrême droite, d'envahir totalement, de prendre pied militairement dans la totalité de la bande de Gaza. Et j'ai trouvé un article dans Le Monde à ce propos. Attendez, je vérifie juste un truc. Bougez pas. Bougez pas. Ok, on peut enchaîner. Donc, Le Monde. Alors, je vous mets l'article en question. Voilà, qui est ici. Voilà, et voilà. Israël, comprenez le gouvernement israélien, agite donc la menace de l'occupation de Gaza, j'ajoute, occupation totale de Gaza. Le gouvernement soupèse les options pour la poursuite des opérations dans l'enclave palestinienne. Une telle décision sera un tournant aux conséquences multiples. Pourquoi ce gouvernement israélien veut-il occuper tout Gaza? Pourquoi? Comment? Pourquoi l'état-major israélien, pourquoi l'armée israélienne s'y oppose, ne veut pas entendre parler? Qu'en dit la communauté internationale? Bon, ça me semble être une question importante. C'est un article, une correspondance de Luc Bronner, qui est le correspondant à Jérusalem du Monde. La guerre de Gaza va-t-elle entrer dans une nouvelle étape aux conséquences majeures? 22 mois, vous vous rendez compte? Ça dure depuis 22 mois. 22 mois après le début du conflit provoqué par l'attaque surprise du Hamas, bientôt 2 ans. Le 7 octobre 2023, le gouvernement israélien a fait savoir par des fuites dans différents médias, sans doute pour tester l'opinion, hein, dans la nuit du lundi au mardi 4 ou 5 août, qu'il envisageait d'étendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Vous noterez qu'on est le 7 août et je surveille cette actualité depuis quelques jours, mais je voulais trouver l'article le plus clair possible là-dessus. Donc, a laissé fuiter cette info qu'il envisageait d'étendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, voire d'ordonner l'occupation totale de l'enclave, ce qui constituerait un nouveau point de bascule à la fois militaire, politique et géopolitique. Une réunion restreinte de sécurité de près de 3 heures au cours de laquelle le chef d'état-major de l'armée, écoutez bien, le chef d'état-major de l'armée israélienne a présenté au Premier ministre les options pour la poursuite des opérations à Gaza. Voilà. Netanyahou, lui, voici sa position. Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza et de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Vous noterez que Netanyahou ne dit pas le Hamas. Les mots sont importants. Il dit Gaza. Il est nécessaire de vaincre totalement l'ennemi à Gaza. Voilà. Et de s'assurer que il ne dit pas le Hamas, et s'assurer que Gaza ne constituera... Le choix des mots, il est essentiel. Il dit quand même, au lieu de dire « je veux m'assurer que le Hamas ne constituera plus une menace pour Israël », il dit « je veux m'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël ». C'est extrêmement clair. Hein. Vous savez, c'est documenté, on le sait, dans des déclarations officielles de ministres de ce gouvernement, ministres d'extrême droite, ces gens estiment que tous les Gazaouis, tous les Palestiniens sont des combattants. Voilà. Femmes, enfants, voilà. c'est très clair dans cette phrase. Nous n'abandonnerons aucune de ces missions, a déclaré Netanyahou. Les négociations entre Israël et le Hamas oscillent depuis des mois. Le cessez-le-feu obtenu en janvier prévoyait plusieurs phases, hein, dont une libération d'otages. Mais le 18 mars, Israël avait rompu ce cessez-le-feu, vous le savez, en reprenant les bombardements et bloqué aussi les livraisons d'aide humanitaire. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec la famine. Des extraits de réunions confidentielles révélés mardi par une chaîne de télé israélienne montrent que les plus hauts responsables sécuritaires de l'État hébreu plaidaient à l'époque pour le maintien du cessez-le-feu. Voilà. Et la recherche d'un accord global afin de terminer la guerre avec le Hamas. Donc on apprend, pas seulement aujourd'hui, mais que déjà au moment de la rupture du cessez-le-feu en mars, les responsables sécuritaires, notamment les responsables de l'armée, étaient pour le maintien du cessez-le-feu. Ce sont les politiques, en l'occurrence le gouvernement israélien, ici, Netanyahou, qui a choisi de rompre le cessez-le-feu et a donné cet ordre à l'armée. Et manifestement, déjà à l'époque, l'état-major était contre. Était contre. Netanyahou et ses ministres avaient alors refusé, choisissant de briser le cessez-le-feu. Aucune avancée significative depuis n'a été obtenue, depuis la fin du cessez-le-feu. L'enjeu de la démilitarisation du Hamas continue d'opposer les deux parties. Bon, ces articles, on les a déjà lus. Enfin, ces infos, je vous ai déjà données. Je ne vous lis pas tous les détails, vous irez lire l'article dans Le Monde si vous le souhaitez. Donc voici pour le dernier projet du gouvernement israélien. Question du monde. Quelles conséquences d'une extension de la guerre ou d'une occupation pour la population de Gaza? Selon les bilans dressés par le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, la guerre à Gaza a fait plus de 60 000 morts et un grand nombre d'enfants. Des bilans jugés par les ONG plausibles. Depuis le début de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, puisque, je vous le rappelle, Israël interdit l'entrée des journalistes internationaux à Gaza, mais, c'est ce que je vous disais à l'instant, ces chiffres, ces bilans, sont toutefois jugés crédibles par les organisations internationales. Ce conflit a aussi blessé plus de 140 000 personnes, dont beaucoup gravement. Une extension de la guerre, comme il est question, sur l'intégralité du territoire, en particulier dans les zones les plus peuplées, représenterait un risque supplémentaire pour les populations, aujourd'hui concentrées sur moins de 13% de l'enclave. Le reste de la bande de Gaza étant déjà sous occupation militaire ou interdit d'accès sous peine de mort pour les Palestiniens. La capacité du Hamas à riposter est difficile à évaluer, puisque qui dit mainmise de l'armée israélienne sur la totalité de la bande de Gaza dit éventuellement riposte du Hamas. Quelle riposte ? Israël a avancé sans détail avoir tué plus de 20 000 militants de l'organisation islamiste palestinienne. L'armée israélienne subit des pertes régulières dans ses opérations à Gaza. 47 soldats tués depuis la fin du cessez-le-feu en mars, 454 depuis le début de la guerre. Sur le plan militaire, l'organisation du Hamas s'est adaptée, opère désormais selon un mode de terrorisme et de guérilla. Elle a partiellement reconstruit ses capacités, renforcé ses rangs de jeunes recrues, parfois très jeunes, soulignent des chercheurs sur le sujet. Attends, il y a mon Joe qui m'écrit. Je verrai ça tout à l'heure. Les capacités de l'armée israélienne sont aussi à question. La presse signale des tensions fortes entre le gouvernement et l'état-major. Rétif au projet d'occupation complète de l'enclave. L'armée, l'état-major, a répondu à Netanyahou que c'était la pire idée, quoi. Quels impacts diplomatiques et politiques ? Vous savez que l'allié principal d'Israël, c'est les États-Unis, et qu'on sait que tant que les États-Unis soutiennent Israël, en tout cas ce gouvernement Netanyahou, il y a peu de chances que ça bouge. Quelles conséquences pour les otages? Quelle réaction de l'opinion publique israélienne? Ça, on peut lire ça aussi. Parce que vous êtes très nombreux à me parler, certains citent des sondages dans le chat. Tout à l'heure, on en a parlé de ces sondages. Quelle réaction de l'opinion publique israélienne à une invasion totale de la bande de Gaza? Samedi, 60 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, autour des familles des otages, pour réclamer la fin de la guerre. Vous, ceux qui pensent que la société civile israélienne est un bloc et que tous les Israéliens valident cette guerre, c'est ignorer qu'une partie des Israéliens dénoncent cette guerre, l'ont toujours dénoncée, et qu'il reste des Israéliens qui souhaitent la paix avec les Palestiniens. Aujourd'hui, ils sont sûrement minoritaires, notamment depuis l'attaque du Hamas. Mais ils existent. 60 000 personnes à Tel Aviv samedi. Dans les études d'opinion, toutefois, de manière constante, plus de 70% des Israéliens réclament la suspension du conflit afin d'obtenir leur libération. Donc les sondages provenant d'Israël, ils sont compliqués à analyser, puisque on a vu ici même ces dernières semaines qu'il y avait un sondage qui disait que plus de 70% des Israéliens soutenaient la politique du gouvernement Netanyahou vis-à-vis des Palestiniens. Et vous avez un autre sondage ici qui dit que 70% des Israéliens, la même proportion, réclame la suspension du conflit. Donc c'est pour ça que je dis attention aux sondages et à la manière dont on doit les interpréter. Puisque vous avez quand même des sondages qui disent que 70% des Israéliens soutiennent le gouvernement dans ces opérations et que 70% des Israéliens souhaitent la fin du conflit. Donc c'est pas tout à fait la même question, mais vous voyez, donc prendre ces sondages avec pincette, quoi. L'enjeu de l'opinion ne vaut que pour le gouvernement. Ne vaut pas que pour le gouvernement, il est aussi essentiel pour l'armée, dont l'organisation repose sur la mobilisation de façon très régulière de dizaines de milliers de réservistes, obligés de mettre entre parenthèses leur vie professionnelle et familiale. Donc des réservistes qui sont de plus en plus épuisés par des mois de combat. En avril, vous en souvenez peut-être, plusieurs milliers de ces militaires, pilotes, officiers, parachutistes, avaient signé une succession de lettres ouvertes réclamant l'arrêt de la guerre. Alors, est-ce que c'est le prélude, dernière question du monde, au retour des colonies juives dans Gaza? Vous savez, comme les colonies juives illégales, on le rappelle, au regard du droit international, juives dans en Cisjordanie. Est-ce que c'est le prélude au retour de colonies juives dans Gaza? Parmi les projets de l'extrême droite nationaliste et religieuse, Gaza constitue un objectif assumé de conquête territoriale. Un des ministres du gouvernement l'a rappelé dimanche en déclarant « De la même manière que nous avons prouvé qu'il était possible d'exercer notre souveraineté sur le monde du Temple, bon, il est allé prier sur l'esplanade des mosquées, c'est une énième provocation. Il est également possible de conquérir toute la bande de Gaza et d'encourager une émigration volontaire. » Vous avez des ministres israéliens d'extrême droite qui souhaitent que des colonies juives s'installent dans la bande de Gaza, comme ils l'ont fait en Cisjordanie. Le sujet est hautement symbolique. En août 2005, donc il y a 20 ans, plusieurs colonies juives avaient été évacuées de Gaza sur décision du gouvernement d'Ariel Sharon à l'époque. Décision jamais acceptée par l'extrême droite, qui voit dans cette perspective de ce qui est en train de se passer une revanche et un projet politique et religieux bien au-delà de la réponse aux attaques du 7 octobre. Le problème, pour résumer d'une phrase, une des choses que nous sommes dites ces derniers mois sur le sujet, pour ceux qui ont raté nos échanges, le problème de cette situation aujourd'hui inextricable, tant que la communauté internationale ne s'en occupe pas sérieusement, ce qu'elle ne fait pas, c'est que ceux qui ont la main, ce sont les extrémistes des deux camps. Aujourd'hui, l'extrême droite israélienne, hein, et côté palestinien, le Hamas. Alors tu vois, comme quoi c'est toujours plus compliqué. Wings écrit, c'est le peuple qui a mis ce gouvernement d'extrême droite au pouvoir. Alors, ça a l'apparence d'un syllogisme, hein, puisque Wings sait qu'a priori il y a des élections démocratiques en Israël, il y a un gouvernement, donc ce gouvernement a été démocratiquement élu, il n'est pas élu. Les députés de la Knesset ont été démocratiquement élus, et ces députés ont donc choisi de mettre ce gouvernement au pouvoir. Donc ça, c'est si on s'arrête pas très loin dans l'analyse. Et c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un régime parlementaire intégral, avec une énorme division de la représentation du vote à l'Assemblée, avec plein de partis, hein, avec une proportionnelle intégrale. Et vous avez des petits partis qui, comme dans tous les régimes parlementaires purs et intégraux, en fait, monnayent leur soutien pour permettre aux plus gros d'accéder au pouvoir, puisque dans ce régime parlementaire avec proportionnelle intégrale, il est très compliqué, encore plus compliqué que dans un pays comme la France, par exemple, pour un parti unique, d'avoir une majorité de gouvernement. Donc du coup, ces gros partis, ici le parti Netanyahou, doit s'allier avec d'autres partis pour gouverner. Et Netanyahou a fait le choix de s'allier avec des petits partis d'extrême droite. Voilà. Ces petits partis d'extrême droite tiennent Netanyahou dans leurs mains, puisque le jour où il se retire de ce gouvernement, le gouvernement Netanyahou chute. Netanyahou, c'est quelqu'un qui a plein de casseroles judiciaires aux fesses. Voilà. Et le jour où il n'est plus au pouvoir, il est poursuivi par la justice israélienne. Donc, entre l'affirmation « c'est le peuple israélien qui a porté l'extrême droite au pouvoir » que j'ai lu dans le chat à l'instant, et une petite partie des électeurs israéliens ont voté pour l'extrême droite, sauf que ces petits partis dans ce régime parlementaire précis-là, par le jeu des appareils et des partis, malgré leur faible importance à la Knesset, au Parlement israélien, eh bien, par le jeu des alliances, a un poids démesuré sur la politique israélienne. Vous voyez, entre les deux analyses, c'est pas tout à fait la même chose. Tu dis ça comme si Netanyahou n'était pas l'extrême droite. Historiquement, Netanyahou n'est pas l'extrême droite. Il vient d'un parti qui n'est pas un parti d'extrême droite. Mais à partir du moment où il s'associe, comme il le fait, à des partis d'extrême droite, et qu'il mène une politique qu'on peut qualifier une politique d'extrême droite, on peut affirmer aujourd'hui que Netanyahou est un homme d'extrême droite. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais attention au raccourci, quoi. Après, moi-même, j'analyse ça avec mes petites connaissances. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, de la vie politique israélienne. J'en ai quelques connaissances. Donc j'essaie de décrypter avec mes petits moyens. Je ne suis pas un constitutionnaliste, et encore moins un constitutionnaliste spécialiste de la vie politique israélienne. Merci, Joss, pour ton message. Bon, je réponds à quelques-unes de vos questions sur ce sujet. Sachez, pour ceux que ça intéresse, qu'on en parle tous les jours. Voilà. Parce que tous les jours, il y a des actualités là-dessus, et tous les jours, on en parle. Voilà, Crayon écrit dans le chat du côté TikTok, le Likoud, historiquement, c'est le parti de Netanyahou, n'est pas d'extrême droite, mais il l'est peut-être devenu, ouais. C'est exactement ça. Ces derniers jours, on s'est beaucoup penché sur, vous savez, les mouvements qu'il y a pu y avoir dans la communauté internationale pour de nouvelles reconnaissances par certains pays de l'État de Palestine. La plupart des pays du monde entier ont reconnu depuis très longtemps l'État de Palestine. Mais certains pays, certains gros pays importants par leur diplomatie et leur économie, notamment les pays du G7, n'ont pas reconnu l'État de Palestine. Ce qui fragilise toute promotion de la solution dite des deux États pour qu'un jour vive en paix, enfin en relative paix, même si c'est pour se regarder en chien de faïence, un État israélien et un État palestinien. Voilà. Et le manque de soutien, la non-reconnaissance par certains grands pays, on pense aux États-Unis, mais aussi à la France, à l'Allemagne, a fragilisé ce processus. Le président Macron a promis qu'en septembre, à la tribune de l'ONU, il allait reconnaître l'État de Palestine, hein. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Dans la foulée, la Grande-Bretagne a indiqué qu'elle allait peut-être faire de même. Le Canada aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont ça a l'air de rien, mais ce sont des choses qui peuvent aider à la promotion de la solution dite des deux États, à la condition qu'enfin, un jour, la communauté internationale assume ses responsabilités. Hein. Si, ce n'est que mon avis, je peux me tromper, hein. Si ce conflit dure depuis aussi longtemps, alors que la communauté internationale, alors que certains pays ont pourtant une responsabilité dans cette situation, si cette situation dure depuis aussi longtemps, c'est que la communauté internationale ne s'est jamais réellement retroussé les manches pour essayer de trouver une solution en soutenant réellement les partisans de la paix, en étant prêt, par exemple, à un soutien massif sur un plan diplomatique et financier, d'un État palestinien qu'il faudrait accompagner dans ses premières années de fonctionnement. Voilà, ça coûterait sûrement très très cher, mais ce soutien aujourd'hui il est pas là, quoi. La solution ne peut pas venir d'Israël aujourd'hui, hein. Vous imaginez bien que Netanyahou ne veut pas entendre parler, et ses alliés ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. La solution ne peut venir que de la pression de la communauté internationale, à commencer par le premier allié d'Israël, qui est les États-Unis. Allez. Bon, on en reparlera demain. Comme tous les jours. Est-ce qu'on reste sur l'actualité internationale ou est-ce qu'on change un petit peu ? Ah, les droits de douane. Voilà. Bon, du coup, on reparle des États-Unis. Trump a déclenché une guerre commerciale en décidant d'augmenter unilatéralement et de façon extrêmement importante les droits de douane sur quasiment les pays du monde entier. Et ça entre en vigueur a priori aujourd'hui. Voilà, notamment pour un pays comme la France. L'article, il est dans Le Parisien. Page... Je vous le mets. 8. Des tarifs encore évolutifs. Les produits européens exportés vers les États-Unis sont taxés à 15% à partir de ce jeudi. Voilà. En Suisse, on prend cher, me dit Dodo à l'instant. Oui, pour la Suisse, c'est beaucoup plus. Je crois qu'on est à 39%. Crayon me le dit aussi. 15%, mais la liste des exemptions n'est pas encore connue, donc c'est encore un petit peu flou, quoi. Alors, l'Union européenne s'est aplatie devant les États-Unis, c'est le sentiment général de l'opinion publique, c'est le sentiment général de la plupart de tous les partis en France, d'ailleurs, voilà, et tous les médias étaient assez d'accord avec ça. Bon, on constate que, manifestement, sans doute pour des raisons de rapport de force, certains ont dû s'aplatir encore plus, hein, on vient de parler de la Suisse, 39% de droits de douane supplémentaires. Peut-être une histoire aussi de rapport de force, quoi. Donc, le Parisien écrit ce matin, l'Inde 50%, ouais, qui a pris cher aussi, le Brésil, voilà. Trump a décidé de frapper le Brésil de droits de douane gigantesques, notamment pour soutenir l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui est poursuivi par la justice brésilienne, et Trump a envoyé ce message surréaliste au Brésil en disant « Si vous ne laissez pas tranquille mon ancien allié Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite, je vais vous mettre des droits de douane de malade. » Je n'invente pas, hein, tout ça, ce sont des déclarations de Trump qui sont des déclarations officielles. Donc l'arme du commerce et du droit de douane utilisé à des fins politiques. Voilà. Donc c'est pour des raisons commerciales, pour des raisons économiques, parfois c'est aussi pour des raisons politiques. Donc lisons l'article du Parisien. Sauf nouveau revirement de Trump, c'est ce jeudi que l'accord douanier conclu entre le président américain et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, entre en vigueur. Donc c'est une date importante. Le décret signé le 31 juillet par le locataire de la Maison-Blanche prévoit des tarifs douaniers de 15% pour les produits européens vendus aux États-Unis. En contrepartie, l'Europe a décidé de ne rien faire. Aucune mesure de rétorsion, par esprit de négociation, a dit Bruxelles. Tout du moins pour 6 mois, le temps de voir comment ce deal s'applique. Depuis le virage protectionniste pris par l'administration américaine, la Commission européenne avait pourtant décidé de lister toute une série de produits made in USA susceptibles d'être taxés s'il n'y avait pas d'accord. Mais il y a eu accord, cet accord des 15%, et donc à ce jour, il n'y a pas de mesure de rétorsion européenne. Accord qui est loin de faire l'unanimité en Europe, vous savez, même le président Macron y est opposé, il l'a dit la semaine dernière, ce n'est pas la fin de l'histoire, nous n'en resterons pas là. Alors, le Parisien qui se veut assez pédagogique, didactique ce matin, nous dit clairement ce qui se passe, ce qui s'applique dès aujourd'hui. La plupart des produits européens exportés aux États-Unis sont désormais taxés à 15%. Ok ? Un tarif plafond valable aussi bien pour les cosmétiques que pour les produits industriels et manufacturés, par exemple, et qui se substitue à la surtaxe de 10% en vigueur jusqu'à présent. Ces nouveaux droits s'appliquent également aux automobiles et pièces pour automobiles qui, depuis avril, décision encore de Trump, étaient taxés à 27,5%. Donc c'est là où on peut comprendre que certaines industries ont accepté ce deal à 15% avec une forme de soulagement parce que depuis avril, Trump avait décidé unilatéralement de mettre ses droits de douane à 27,5%. Donc ils se disent, ben 15 c'est moins que 27. Voilà. En revanche, ce 15% ne concerne pas l'acier et l'aluminium qui restent soumis, décision de Trump, à un taux de 50% de droits de douane. Voilà. Il ne concerne pas non plus le secteur aéronautique, puisque là il y a eu un accord qui continuera à être exempté de taxes. Avant les 15% étaient à combien ? Alors avant que Trump arrive au pouvoir, parce qu'avant les 15%, vous avez compris qu'il y avait toute une série de droits de douane supplémentaires qui avaient été décidés, notamment pour l'automobile, mais avant on était à 2 ou 3%, je crois. Avant l'élection de Trump, avant le deuxième mandat, je crois qu'on était en moyenne, pour les droits de douane américains étrangers, on était autour de 2-3%. Quoi. Voilà. Quelqu'un dans le chat va me corriger si ce n'est pas 2, si c'est 4, mais c'est de cet ordre-là. Est-ce que la France est défavorisée par rapport aux autres pays ? Pas vraiment. À regarder les accords déjà signés entre les États-Unis et les autres pays, seul le Royaume-Uni fait mieux que les 15% appliqués à l'Europe. Alors on peut dire que le Royaume-Uni a mieux négocié parce qu'ils n'ont que 10%. Alors moi j'ai lu un article qui m'expliquait que, je ne sais pas si cet article est juste, mais je ne l'ai plus sous les yeux, c'était il y a quelques jours, que en fait le calcul n'est pas le même et qu'en fait les 10% négociés par les Anglais, ça revient à nos 15%. Voilà. Voilà. Alors Monkeyboard est allé chercher les sources. Avant on était plutôt sur 4% pour les produits. Environ 1% si on prend en compte tout avec les services, voilà, on me donne le chiffre de 2,5%. Voilà, c'était à peu près ça avant. Donc, Angleterre 10%, mais certains disent que ce 10% en vrai c'est un 15%. Mais a priori, sur le papier, ils s'en sont plutôt bien tirés. Si les 15% européens s'alignent sur les tarifs appliqués au Japon et à la Corée du Sud, on est à peu près sur la même chose. Ils sont beaucoup plus raisonnables que ceux infligés au Brésil. 50% pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour soutenir l'ami Bolsonaro. À la Suisse, 39%. Donc là, je ne me suis pas penché sur le cas suisse, mais j'ai l'impression quand même que la Suisse, bon, qui n'est pas un, qui est quand même un pays important sur le plan du commerce et des exportations, hein, c'est une économie qui exporte énormément, mais évidemment, dans son bras de fer, sans faire injure à nos amis suisses, même si on peut se moquer des 15% acceptés par Ursula von der Leyen, on imagine que dans le bras de fer États-Unis-Suisse, c'était encore plus compliqué pour le gouvernement suisse. Donc en Suisse, il y a beaucoup d'articles qui disent on s'est vraiment fait avoir. Quoi. Donc la Suisse, ils ont pris 39%. Le Canada, 35%. La Chine, 30%. L'Inde, 25%. Et ça va passer en 3 semaines à 50%. Ça, c'est pour les autres pays. D'autant que l'industrie aéronautique qui voit ses droits de douane maintenus à zéro et le secteur français qui exporte le plus aux États-Unis. Ça exporte tant de ça, la Suisse ? La Suisse, c'est un pays qui exporte, ouais. Ouais. En 2024, selon les chiffres des douanes, bon, il se trouve que l'aéronautique, on est toujours à zéro et c'est le premier poste d'exportation de la France aux États-Unis, c'est l'aéronautique. Après, on exporte des boissons et des produits pharmaceutiques. Alors, tout n'est pas encore figé. Pourquoi tout n'est pas encore figé? Si l'accord conclu le 27 juillet fixe les droits de douane américains à 15%, un certain nombre de sujets sont toujours en suspens. Les tarifs sur les semi-conducteurs, par exemple, les produits chimiques. Reste la question très importante pour la France des vins et spiritueux, et celle tout aussi sensible des produits pharmaceutiques. Parce que normalement, c'est 15% sur les produits pharmaceutiques, sauf que Trump, mardi, a dit que d'ici un an et demi, peut-être que ça pourrait passer à 250%. Voilà. La déclaration commune de Bruxelles et Washington qui se fait attendre doit clarifier les contours du deal, mais aussi les prochaines étapes, notamment dans les négociations spécifiques. Voilà. Voilà où on en est. Oui, toujours plus. N'évaillez, pourquoi pas 1500% aujourd'hui ? Ne le souffle pas à Trump, hein, il serait capable. Hein. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Ah ben on a quoi là? Ah regardez, on a les taux pour les pays là. Ah, j'avais pas vu le graphisme. C'est pas mal ça. L'annonce par Trump et ce qu'il a fait finalement. Parce que vous savez qu'il annonce toujours beaucoup pour reculer ensuite, histoire d'arriver en force aux négociations. Ça c'est la méthode de Trump tout le temps. La Chine, il avait annoncé 145%. Finalement c'est 30%. L'Union européenne, il avait annoncé du 50%, finalement 15%. Le Vietnam, il avait annoncé 46%, c'est du 20%. Cambodge, 36%, c'est du 19%. Thaïlande, 36%, c'est du 19%. Bangladesh, 35%, c'est du 20%. Indonésie, 32%, annoncé 19% effectif. 25% pour la Corée du Sud, effectif 15%. Le Japon, 15% également, je vais directement à ce qui est appliqué. La Malaisie, 19%. Israël, 15%. Allié traditionnel des États-Unis, mais Israël espérait beaucoup mieux. Le gouvernement israélien est assez déçu, pensait que l'ami américain allait leur faire une fleur. Trump ne l'a pas fait. Suisse, 39%. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Suisse. Et Brésil, 50%. Dans le chat, on me dit, et la Russie? Je n'ai pas l'info, moi je vais la chercher. C'est une bonne question. Je n'ai pas l'info, c'est une très bonne question. Et la Russie? Droit de douane Russie? Pourquoi je l'ai pas? Certains disent que c'est 0, certains disent que c'est 50. Alors attends. Pourquoi je trouve pas l'info? Bon, après, je sais pas si les exportations russes. Salut Joe! Je vais le trouver, hein, je suis têtu.
J'ai un article de juillet là sur BFM.
Oh, c'est Soprano ça.
Voilà, qui dit qu'il y a quelques jours, Trump a menacé la Russie et ses alliés de droits de douane de 100%. La semaine dernière, le locataire de la Maison-Blanche semblait déjà amorcer un changement d'approche. Il disait étudier de très près une proposition de loi républicaine visant à imposer des droits de douane jusqu'à 500% aux pays achetant du pétrole, du gaz, de l'uranium à Moscou. Frapper ceux qui achètent à Moscou. Mais je trouve pas le chiffre des droits de douane aujourd'hui. Ah, Crazyman me dit il y a quasi aucun échange commercial entre la Russie et les États-Unis sauf quelques minerais. Ah, ok, donc c'est pas très pertinent alors. D'accord. Mais bizarre qu'on trouve pas le. Quelqu'un a trouvé l'info du taux de droits de douane aujourd'hui contre sur les produits russes? Ah, j'ai trouvé un article dans Courrier International. Tiens, ah, c'est très intéressant ça, regardez. Une pluie de droits de douane s'abat sur le monde, le président américain, blablabla, blablabla, mais l'absence dans la liste de certains pays, en particulier la Russie, interroge, c'est intéressant, la presse tente de décrypter ce choix ambigu. Tous les pays ou presque sont concernés, mais certains manquent à l'appel. Regardez, on a un élément de réponse à cette question, vous avez bien fait de poser. La Corée du Nord, Cuba, la Biélorussie, la Russie. Bon, on ne peut pas vraiment parler d'alliés des États-Unis, quoi. L'argument officiel relayé par un porte-parole de la Maison-Blanche est simple, avec ces pays, les sanctions... Ah, parce que quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure ça. Les sanctions déjà en place excluent tout commerce significatif. Ah, merci Grégorio pour le soutien. La Russie est exclue de la liste générale des droits de douane. Merci beaucoup. C'est toi, GPU, qui me disais ça. Pas parce que Trump a décidé de faire une exception pour la Russie, mais parce que Moscou fait déjà l'objet de restrictions sévères. Et par ailleurs, un média russe disait « Il s'agit aussi de ne pas tendre les relations au moment où le président américain veut négocier la paix entre Kiev et Moscou. » Bon, ben voilà. Très bonne question du chat, merci beaucoup. Et on a trouvé la réponse. Comme quoi, quand on veut trouver une info, on finit par la trouver. Intéressant, hein ? Ben, j'avais pas l'info, moi. Non, tu as raison. Sully H me dit, l'IA m'a dit ça. Bon, l'IA, méfiez-vous, parce que il y a des IA qui travaillent très très bien, mais parfois, il faut toujours vérifier quelle source l'IA utilise. Hein. Pas de nouveau taux unique Trump sur la Russie elle-même, mais durcissement indirect sur les partenaires de Moscou. Par exemple, 50% pour l'Inde sur certains produits à cause de ses achats de pétrole russe. Tu as raison, c'est juste. C'est vrai. C'est-à-dire que la Russie est touchée indirectement par les droits de douane qui touchent des pays comme l'Inde ou la Chine qui commercent avec Moscou. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Est-ce que c'est pas paradoxal, me dit Alexandre, de punir autant la Russie sans rien dire à Israël? Je pense que tu peux en parler à Trump, effectivement, ça pose question. Ok. Bon. Donc voilà pour le point sur la guerre commerciale déclenchée par Trump. On en verra dans quelques jours, semaines, mois, années, les conséquences sur l'économie mondiale, l'économie américaine également. Ce matin, je voulais aussi vous parler du budget. De l'influenceur, du YouTuber François Bayrou, puisque nous avons un nouvel influenceur dans le paysage numérique français, un nouveau YouTuber qui est François Bayrou, qui a créé sa chaîne YouTube il y a quelques jours et qui a posté sa première vidéo hein, sur la page YouTube FB Direct, François Bayrou Direct. Voilà. Pas direct parce que c'est en direct, parce que c'était enregistré. Pas direct parce qu'il y a des commentaires en direct, parce qu'il a ouvert les commentaires un petit peu après. Mais direct parce que c'est une façon pour François Bayrou de parler directement aux Français. Donc, on s'est un peu penché là-dessus.
On avait vu que ça avait fait un petit peu un flop au niveau du nombre de vues, notamment pour une raison que je ne m'explique pas très très bien. Parce que François Bayrou, plutôt que poster cette vidéo sur le site du gouvernement, sur la page YouTube du gouvernement, qui a beaucoup de followers, l'a posté sur une chaîne YouTube qu'il a créée lui, qui a que quelques milliers de followers. C'était un peu étrange. Je ne sais pas qui l'a accompagné dans cette réflexion. Mais en termes d'exposition, en tout cas, c'était pas foufou, quoi. On s'est penché sur le sujet ces derniers jours. Mais au-delà de la blague, où quelqu'un a créé pour lui. Oui, oui, j'imagine bien que c'est pas François Bayrou qui est allé sur YouTube pour créer sa page. Évidemment. C'est toujours amusant de voir comment les acteurs traditionnels ou des médias ou de la politique se lancent sur les nouvelles plateformes. Parfois, c'est un petit peu hasardeux. J'aurais bien des histoires à vous raconter sur le sujet, mais pas prévu d'en parler. Non, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce projet de budget, il est de plus en plus clair. Regardez, hop, je vous montre. Boum. C'est la une du Monde. Voilà. Je vous rappelle que les annonces de la mi-juillet, l'allocution de la conférence de presse du Premier ministre François Bayrou sur le projet de budget de la rentrée qui va être discuté au Parlement, là, on la réacte à l'époque. On a vu ce qu'il y avait dedans, mais c'est un projet. Hein. D'abord, c'est un projet de loi, il faut qu'il soit voté. Il peut ne pas être voté. Et puis surtout, à l'époque, ça n'était que les annonces. Eh bien, ça devient un petit peu plus précis. Voilà. Puisque les plafonds de crédit pour chaque ministère ont été fixés. C'est-à-dire que Bayrou vient de dire à chaque ministère, enfin le gouvernement, voilà ce que vous allez pouvoir dépenser cette année. Il y a une deuxième vidéo, me dit Gépif. Ouais, mais on va pas se taper toutes les vidéos de Bayrou, puisque il y a Théo qui dit, mais Bayrou a vraiment créé sa chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. Il a aussi annoncé qu'il allait poster un épisode chaque jour pour éclairer plein de sujets liés au budget et au déficit. Voilà. Donc, je vais pas aller me taper les... Non. Je préfère jouer à Valo. Il a déjà tout annoncé à la mi-juillet lors de la conférence de presse. Vous l'avez en react sur YouTube et sur Twitch, quoi. Donc, ça va, quoi. Et donc, il y a du nouveau, c'est les lettres de cadrage. Lisons Le Monde. Le Premier ministre qui entend ramener le déficit public de 5,4% du PIB en 2025 à 4,6% en 2025 a fixé les plafonds de crédit pour chaque ministère, ce que chaque ministère va pouvoir dépenser. Ça devient un peu plus clair. Bientôt sponsorisé par Oli, peut-être, François Bayrou. On ne sait pas. Les dépenses de défense... L'armée progresse, tout comme la charge de la dette, les intérêts de la dette, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Des économies sont en revanche prévues presque partout ailleurs, pour résumer. Parmi les missions de l'État, le sport, le travail, la solidarité, l'aide au développement vont être affectées par des coupes budgétaires. Sport, travail, solidarité, aide au développement. Par contre, plus pour la défense et plus pour les intérêts de la dette, puisque on est extrêmement endetté, quoi. Parler sur les réseaux et parler devant les télés, c'est pour éviter la contradiction. Oui, c'est ça, Carlos, tu as raison. C'est une façon de parler directement aux Français, sans contradiction, puisque il n'y a pas de chat en direct, il n'y a pas de questions de journalistes. C'est une façon de parler directement, voilà, sans... Alors, certains diront sans les filtres médiatiques, mais aussi sans les questions des médias, quoi. Voilà. Pour défendre ces mesures drastiques et impopulaires, François Bayrou a lancé mardi une opération de communication directe par une vidéo YouTube. Voilà. Sans majorité à l'Assemblée nationale, on verra ce qui va se passer à la rentrée. Le chef du gouvernement prend le risque de monter seul au créneau. Allons voir les articles. Regardez ce graphique. Là, vous avez les budgets affectés à chaque ministère. Aujourd'hui, à ce jour, d'après ce graphique, le premier budget de l'État, c'est toujours l'éducation. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Avec 64 milliards et demi de budget en 2026. Ce qui est très, très inquiétant, très embêtant, et c'est une des raisons pour lesquelles Bayrou fait tout ce qu'il fait en ce moment, c'est que la charge de la dette, uniquement les intérêts de la dette sans la rembourser, est devenue le deuxième poste de dépense de l'État français. Hein ? Il est prévu en 2026 qu'on dépense 59,5 milliards, donc presque ce qu'on dépense pour l'éducation, uniquement en intérêts de la dette. Donc les gens qui disent qu'il faut réduire la dette parce que cette charge de la dette, elle est insupportable, on peut entendre cet argument. Voilà. la charge de la dette est pas loin de devenir, et va le devenir bientôt, si ça continue comme ça, le premier poste de dépense. Ça n'est pas de l'argent qui est investi dans l'éducation, dans la sécurité, dans l'armée, dans le social. C'est un argent qui est dépensé uniquement pour les intérêts de la dette. La défense, 57 milliards, en augmentation de 13%. Recherche et enseignement supérieur, 31 milliards. Solidarité, insertion, égalité des chances. Je pense que la santé est dedans, je pense. Hein, parce que je ne vois pas la santé là. On est sur 28 milliards. Cohésion des territoires, 22 milliards. Écologie, 20 milliards. Travail, emploi, administration, blablabla, 18 milliards. Sécurité, 17 milliards. Justice, 10 milliards. Voilà. Lisons un petit peu le détail. Une forte hausse des crédits pour muscler la défense, ok. Une autre pour payer les intérêts de la dette et des économies presque tout ailleurs, voilà. Tels sont en résumé les contours des dépenses de l'État dessinées par Bayrou. Après avoir présenté le 15 juillet les grandes lignes de son plan de redressement des finances publiques, on l'a streamé ici, on l'a réact, le Premier ministre a donc arrêté les futurs plafonds de crédits pour chaque ministère, donc c'est un peu plus précis. La différence entre la défense, la sécurité, c'est la police. C'est la sécurité sur le sol intérieur, en fait. Le cadre global est clair. Comme ici engagé vis-à-vis de l'Union européenne et des marchés financiers, Bayrou entend ramener le déficit public de 5,4% du PIB à 4,6%. Pour y parvenir... parce que l'objectif, c'est de passer sous les 3% en 2029. Bayrou a prévu d'augmenter les recettes fiscales de 10 milliards d'euros, notamment en créant une contribution de solidarité sur les plus hauts revenus, ouais, sauf qu'elle n'est pas précisée aujourd'hui, on ne sait absolument pas à quoi elle va ressembler, cette contribution de solidarité sur les plus hauts revenus. Voilà. Et en ne relevant pas le barème de l'impôt sur le revenu malgré l'inflation. Donc mécaniquement, on va payer un peu plus d'impôt sur le revenu d'hier. Mais son projet repose aussi sur les économies imposé au service public. Bon, là, le monde oublie peut-être aussi de rappeler qu'il y a la fin de l'abattement de 10% pour les retraités. Les retraités qui vont payer, ceux qui payent de l'impôt en tout cas, vont payer un peu plus d'impôts. Mais aussi des économies imposées au secteur public. Les dépenses publiques ne devraient augmenter hors inflation que de 0,4% en 2026. Modération donc. Les dépenses de la sécurité sociale vont fléchir de 0,3% de l'État. Ça croît de 2,5%. Et en fait, essentiellement en raison de la hausse des crédits militaires et de la charge de la dette. La défense constitue la priorité numéro 1, avec des dépenses en hausse de 13%. Voilà, non seulement on ne leur demande pas d'économie, mais on leur donne plus d'argent, hein, au vu du contexte international, hein, expliqué le président Macron. Un deuxième poste devrait augmenter fortement de façon moins volontaire la charge de la dette, c'est ce que je vous disais. L'endettement de la France ne cesse de grossir. Le paiement des intérêts par l'État devrait nécessiter environ 8 milliards d'euros de plus par an. 8 milliards d'euros de plus par an. Voilà. Le projet de budget prévoit également de préserver le ministère de l'Intérieur, hein, la sécurité. La justice, légère hausse des crédits aussi. En dehors de ces quelques domaines, les ministères devront tous se serrer la ceinture avec une baisse globale d'1,6%. Parmi les grands sacrifiés, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, qui va perdre 20% de son budget. C'est énorme. Une baisse de 16% pour l'aide publique au développement des pays pauvres, qui va déjà beaucoup baisser en 2025. Baisse sensible également pour les ministères sociaux. 1,7 milliard d'euros en moins pour la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances. Moins 9% pour le travail également. Voilà. Là, vous avez un petit cadré sur la vidéo YouTube. Alors, prochain épisode maintenant, à la rentrée, à l'automne, là. Ce projet de financement, enfin ce projet de loi de financement, ce qu'on appelle le budget, va être présenté au Parlement et après le Parlement va le voter ou pas le voter. Voilà. Le gouvernement Bayrou n'a pas de majorité à l'Assemblée, vous le savez. Va-t-il trouver une majorité pour voter ce texte qui est critiqué par tout le monde? Le gouvernement Bayrou va-t-il chuter, va-t-il tomber après pareil, ou une motion de censure ou un 49-3 utilisé par le gouvernement Bayrou pour faire passer le budget et donc un vote de défiance dans la foulée. Voilà, à suivre. Est-ce que Bayrou sera à la Zilane? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors, prochaine actu, je me demande si on va pas doucement vers la fin de cette revue de presse. Déjà. La rentrée de questions pour un champion, tu veux dire les émissions inédites? Ben, je sais pas, à partir de la première semaine de septembre, tu retrouveras questions pour un champion. Ah, ce sera la rentrée. Pas le lundi, pas le mardi, pas le mercredi, pas le jeudi, pas le vendredi, hein, puisque décision a été prise par la direction du groupe de supprimer questions pour un champion du lundi au vendredi. Avant, on était en 7 jours sur 7, et il reste 2 jours sur 7, puisque nous ne serons plus que le samedi et le dimanche. J'ai déjà dit ce que j'en pensais. Alors, on va terminer par... enfin, une info, sinon positive, en tout cas un peu plus légère. Le retour de la série Mercredi sur Netflix. Ah oui, d'ailleurs, point d'exclamation QPUC dans le chat sur Twitch. Et vous avez effectivement le replay du stream que j'avais consacré à cette histoire. Voilà. Tu seras encore meilleur à Valo, peut-être. Voilà. Et donc, le retour de la série Mercredi sur Netflix. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'on est jeudi. Donc jeudi est annoncé le retour de la série Mercredi qui a donc eu lieu la veille. Donc est-ce qu'il faudra attendre la semaine prochaine mercredi ou est-ce qu'il est déjà disponible? Je sais pas. On va aller voir le Parisien là-dessus, c'est pas très très clair dans ma tête. C'est sorti hier. Ah donc c'était mercredi alors. Ah donc ils ont sorti mercredi. Ah bon, alors ça va. Bon alors ça va. Ok. Tout va bien alors. Hop, on va 22, page 22. Et après, à la fin, on fera un petit bilan du stream sur TikTok. C'est la première fois qu'on streamait cette revue de presse sur TikTok. Il s'est passé un truc intéressant qui est peut-être lié ou à la forme de cette revue de presse ou à un truc propre à TikTok. Mais j'en parlerai sans doute avec TikTok France directement. On fera un petit bilan. Merci les viewers de TikTok d'être venus ce matin. Mais on fera un petit bilan de ce premier live revue de presse co-diffusé sur Twitch et TikTok. Voilà. Et on se penchera notamment sur le message que TikTok m'a envoyé au début de ce stream. Donc, Tim Burton en plein délire. Ah, c'est vrai que c'est Tim. Attends, c'est Tim Burton qui réalise? Non. C'est pas Tim Burton qui réalise mercredi? Non. Je vois en bas mercredi, série fantastique américaine d'Alfred Coe et Miles Millar. C'est lui? Ah ouais? Ok, dinguerie. C'est pour ça que c'est bien alors. Il produit ou il réalise? Il n'a pas fait tous les épisodes, me dit Jamy. Il coproduit. Mais il a réalisé quelques épisodes. Ok, le chat est formidable. Samuel, tu peux faire une dédicace? Bien sûr, Gabin. Spécial dédicace, mon ami Gabin. Ok. Il coproduit et il a réalisé quelques épisodes. Ok. Lisons, mesdames et messieurs. C'était la rentrée à l'Académie Nevermore, cette école qui accueille les adolescents dotés de pouvoirs spéciaux. J'y ai été, moi, dans cette académie, parce que j'ai un super pouvoir aussi. Pour sa deuxième année sur place, mercredi, la fille de la famille Adams revient en compagnie de son frère, Pugsley, mais aussi de ses parents qui, à sa grande consternation, ne restent pas loin. Sa mère, Morticia, œuvrant pour lever des fonds pour l'école, pour compliquer le tout, un inconnu, tiens donc, un inconnu s'en prend rapidement à elle et risque bien à en croire ses talents de prémonition de tuer sa compagne de chambrée, Enid. C'est embêtant, ça. Salut Pomme d'Api, bonne journée. La version filmée de La Famille Adams restera un projet inabouti de Tim Burton, qui avait dû laisser sa place de réalisateur sur ce projet né au début des années 90. Nous n'avons pas perdu au change, puisque le metteur en scène s'est dépassé en 2021 en signant, vous aviez raison, comme d'habitude, plusieurs épisodes de la série Mercredi, qui s'intéresse donc à la fille de la famille Adams. Bah, On est d'accord que la première saison, c'est une masterclass, quoi. Moi, je regarde pas beaucoup, mais c'est top, quoi. Une fiction récompensée de 4 Emmy Awards des Oscars de la télé qui, à l'époque, avait décroché le meilleur démarrage de l'histoire pour une série anglophone sur Netflix. Vous aviez aimé la première saison ? Osweet me dit la première saison était un chef-d'œuvre personnellement. Clairement, une première saison de dinguerie, me dit Ginette. Oui, très bonne série, me dit Palomaï. Banger. Incroyable. Le pouvoir que j'ai ? Ah, c'est... Non, c'est le pouvoir de super lecture. Je lis très vite. Perso, j'ai pas accroché. C'est très ado, mais très bien fait, me dit Tangerine Nightmare. Clairement, la première saison, une dinguerie. Pas mal, mais divertissant surtout. J'adore le personnage de Mercredi, son interprétation. Ah, mais le scénario est moyen, me dit Sun Shinek, pardon. Perso, rien ne va détrôner La Servante Écarlate que j'ai fini il y a quelques jours, me dit Léa. Ok. J'adore la chose. C'est la main, ça, c'est ça ? Donc, fiction récompensée de 4 Emmy Awards à l'époque. Voilà, et à juste titre, ce mélange de gothique, de fantastique, d'humour noir et de comédie se révélait jubilatoire. Bonne nouvelle, cette saison 2, mise en ligne ce mercredi, élève le niveau de la première. S'élève, pardon, au niveau de la première, voire la dépasse. Donc ça a l'air plutôt ok. Jenna Ortega se glisse sans peine dans les fringues surannées de son personnage, délivre des répliques toujours aussi acerbes à son entourage, particulièrement à sa mère. Je crois que je vais me mettre sur la saison 2. Une génitrice incarnée par Catherine Zeta-Jones qui bénéficie ici d'un temps de présence plus conséquent. Clairement, les producteurs ont augmenté le budget recrutement, attirant dans leur filet de nombreux non connus, à commencer par Steve Buscemi, qui est un immense acteur, hein, incarnant le directeur fantastique de Nevermore, Jonah Lumley en mère de Morticia, ou Christopher Lloyd en professeur sur roulette. Avant Lady Gaga, ah bon ? Avant Lady Gaga, attendu pour les derniers épisodes disponibles dès le 3 septembre. Même gain qualitatif au niveau des écorces de l'histoire bien alambiquée. Est-ce qu'on peut se trouver un trailer peut-être ? Mercredi, saison 2, peut-être. En VF, mais oui, en VF, ok. Ok, je l'ai. Alors attendez, je vous mets ça. On regarde ? Ça a marché, ça a marché. On regarde ?
C'est la toute première fois que tu retournes dans une école de ton plein gré ? Qu'est-ce que ça te fait ?
C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres.
Mercredi Adams ! C'est un honneur de rencontrer celle qui a sauvé Nevermore.
Je peux avoir un autographe ?
Je ne signe qu'avec du sang.
J'en attendais pas moins.
Je n'ai pas dit que c'était mon sang. Il va falloir piéger cette porte, illico.
Salut, Coloc ! On va tellement s'éclater !
Je préfère éclater des crânes.
Mercredi.
Je sais ce que signifient ces larmes.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Enid meurt et tout est de ma faute.
Je suis morte à cause de toi !
Je ne laisserai pas le passé se répéter.
Les secrets sont les fondations de la famille Adams. Plus vite j'aurai les réponses, plus vite je pourrai sauver Enid. Ou mourir en essayant.
Les femmes comme nous, nous traçons notre voie. Nous creusons notre tombe.
Cours.
Qu'est-ce qui vient de se passer ?
Mercredi, a priori.
Bravo !
Mercredi Adams est là. C'est Adams avec 2D, comme dans Addiction Macabre.
Oui, VF. Alors moi, je regarde en VO, mais souvent, en stream, je mets les VF, parce que toujours qu'ils râlent. Oui,
Moi, je suis pas bilingue. Pourquoi t'as pas mis les sous-titres voilà. Donc, moi personnellement, je regarde en VOST, mais souvent, je mets le trailer en français. Voilà. Puis on a très bons comédiens et comédiennes de doublage en France, donc c'est aussi une façon de promouvoir leur travail, alors que vous savez, ils sont menacés notamment par l'IA, quoi. Voilà. Je suis arrivé, je croyais que c'était la pub. Non, c'était le trailer. Bon, les amis, merci d'avoir été là ce matin. Très intéressant ce qui s'est passé. C'était la première fois qu'on co-diffusait cette revue de presse sur Twitch et YouTube. Oui, c'était court. On a fait gros, c'était court. On a fait combien ce matin? On a fait 2h30. Mais on fera plus long demain. Mais parce que j'ai un petit rendez-vous de travail là tout à l'heure. Et aussi, il faut que je continue à travailler sur la diffusion sur TikTok. On a lancé le live tout à l'heure sur TikTok, il y a donc 2h30. Et on a eu très rapidement autour de 400 personnes avec nous, ce qui est vraiment beaucoup, sur TikTok pour nous suivre. Voilà. Et puis, au bout de quelques minutes, comme lors de mon premier test la veille, j'ai reçu un message de TikTok qui disait... Ceci, visibilité du live restreinte. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche, car il inclut du contenu non original ou reproduit. J'ai déjà eu ce souci-là pour des clips. Voilà. Et je pense que Alex Yamax a raison dans son analyse. Cette décision est conforme aux normes des UGC. Bref. Et on est tombé de 400. Personnes sur TikTok là on est à 87. Voilà. L'audience n'est pas tout. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à discuter avec un chat même si vous n'êtes pas des milliers. La question n'est pas là. La question c'est est-ce que TikTok veut de ce contenu? Est-ce que TikTok, il y a plein de choses sur TikTok, mais est-ce que TikTok veut qu'on parle d'actualité et accepte le principe d'une revue de presse? Alex sur le chat TikTok dit que TikTok a limité ton audience car il n'aime pas les partages de photos de vidéos. Et effectivement, je pense que ça a commencé d'ailleurs, ce message, alors qu'on avait commencé à montrer des articles. Et voilà. Alors, c'est un truc de bot. Hein. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un à TikTok France ou à TikTok US, ou TikTok Chine d'ailleurs, qui a vu ça en disant « Ah, c'est pas, on veut pas de ça ». Donc c'est un bot qui a décelé le fait qu'on montrait des articles comme potentiellement un contenu non original ou reproduit. Voilà. Et donc, moi, j'ai contesté aussitôt. Voilà. Et ce qui est mais là, il faut que je creuse, mais ça va être très compliqué de comprendre ce qui s'est passé. Hier, on a fait deux tests. On a fait un test avec cette mise en page là. Voilà. Hop, je vous montre pour TikTok du coup, avec ma grosse tête en haut et l'article en dessous. Hein. Et ça, au bout de quelques minutes, on a reçu ce message d'alerte et on a vu l'audience s'écrouler. Voilà. Et après, on a lancé un deuxième live en caméra virtuelle où, en fait, j'ai diffusé sur TikTok mes scènes Twitch classiques. Et pour une raison que j'ignore, ce stream-là n'a pas reçu d'avertissement. Voilà, est passé sans problème et on était au lieu d'être sur quelques dizaines de personnes, on était sur plusieurs centaines de personnes. Voilà. Donc, est-ce que c'est une question de forme? Voilà. Le problème, c'est que le fait de diffuser sur TikTok, du coup, plutôt en horizontal, mais scène Twitch. Alors pour moi, c'est plus simple. Hein, c'est plus simple. J'ai qu'un truc à gérer. Le problème, c'est que du coup, ça met le chat Twitch sur TikTok. Alors, sur TikTok, ils vont se retrouver avec deux chats, sans doute l'un sur l'autre. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, vous voyez, c'est pas easy. Donc, je vais interroger, c'est pour ça que je vais vous laisser ce matin un peu plus tôt. Je vais interroger les gens avec qui je discute chez TikTok France en espérant qu'ils aient la réponse. Parce que c'est pas une décision qu'ils prennent, hein, c'est un truc de bot. Navigateur, oui, mais si tu réponds uniquement au chat de Twitch, ça peut faire sens qu'il soit à l'écran. Sauf que je réponds vraiment aux deux chats. Moi, je voulais remercier et féliciter les gens qui sont venus sur le chat TikTok, sur TikTok, parce que pour le coup,
Tiens, nouveau message. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques et peut entraîner la suspension de l'envoi de cadeaux. Encore autre chose, ça. Motif contenu reproduit. Donc on n'arrête pas de m'engueuler là. Deuxième avertissement de TikTok à l'instant. Waouh. À l'instant là. Voilà. Et en fait, le chat TikTok était dans la qualité des interventions très proche de ce que de sur Twitch. Donc l'idée que c'est une idée reçue qu'on entend souvent sur TikTok, c'est une dinguerie et c'est encore plus compliqué à gérer en termes de modération. Voilà, moi je ne l'ai pas constaté hier, je ne l'ai pas constaté ce matin. Donc il y a vraiment un truc à faire. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué du côté de TikTok, voilà, de leurs règles, de leurs bots. Voilà. Donc je vais écrire à un humain, mais pour avoir déjà posé la question sur des clips de revues de presse, des clips de revues de presse justement, qui ont été comme ça censurés par TikTok dans le passé. Je crois que ça va être compliqué. Voilà. Le pari étant de toucher sur TikTok un autre public. Voilà, Tib nous dit, je ne comprends pas l'intérêt du multistream perso. Si tu veux voir la matinée Étienne, tu vas sur Twitch et puis c'est tout. Il y a des gens qui ne veulent pas venir sur Twitch. Twitch, les gens ne se rendent pas compte sur Twitch parce qu'on est un peu dans notre bulle, une très agréable bulle. Mais en fait, Twitch, c'est une plateforme qui n'est pas consommé par tout le monde, voilà. Et vous avez sur TikTok un public qui n'ira jamais sur Twitch. De même qu'il y a un public sur Twitch qui n'ira jamais sur TikTok d'ailleurs. Donc sur un contenu qui me semble important, qui est celui d'échanger au quotidien sur l'actualité, je trouve ça important d'aller sur différentes plateformes. Après la pétition du plomb, la pétition TikTok, me dit user Binours. Donc on verra. Donc si ça fonctionne, si TikTok me laisse le faire, je le ferai. Et si c'est trop compliqué, là je suis vraiment dans une phase de test, hein, vous l'avez compris. On va pas s'embêter. Hein. Si TikTok ne crée pas un écosystème pour qu'une revue de presse, pour qu'un échange sur l'actualité puisse se passer dans de bonnes conditions, je ne le ferai pas. Ben, tant pis. Hein. Voilà, Gino, pour répondre à quelqu'un dans mon chat Twitch qui disait « Mais pourquoi venir sur TikTok ?» nous dit « Je suis passé ce matin sur TikTok pour te regarder. Sans cela, je n'y aurais jamais mis les pieds. » Voilà. Voilà. Est-ce que tu liras les messages du chat TikTok ? La plupart le délaissent pour lire seulement le chat Twitch. Ce matin, là, j'ai les deux chats sous les yeux et je lis les deux. Et ça fonctionne très bien. Léa me dit du côté de TikTok, j'ai découvert votre revue de presse ce matin. Tu vois, cette revue de presse, ça existe depuis quasiment 5 ans. Tout le monde ne va pas sur Twitch. Et YouTube, YouTube, on verra. Moi, je voulais commencer par TikTok. Et ça s'est bien passé, en vrai. Voilà. Bon, merci en tout cas pour ce matin. Je vais faire du travail de bureau, quoi. Je vais écrire un petit peu, notamment à TikTok France, et je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Demain, je vous donne rendez-vous. Parce que demain matin, je vais, quoi qu'il arrive, refaire une revue de presse diffusée sur les deux plateformes, TikTok et Twitch. Et par contre, on fera une réale différente, horizontale, où je vais reprendre sur TikTok ma mise en page Twitch. Donc vous aurez vraiment sur TikTok le stream, la réalisation Twitch avec les mêmes scènes. Voilà. Alors ça pose le problème. Merci le Studio Geek pour le raid. Ça pose le problème du chat Twitch que du coup les gens de TikTok auront. Mais par contre, la mise en page est plus propre. Et hier, étrangement, ce stream-là n'a pas été censuré, n'a pas été jugé comme problématique par TikTok. Parce qu'on avait fait les deux tests. Alors ça, pourquoi, je ne sais pas. Je vais en parler avec les gens avec qui je travaille et je vais en parler avec Twitch France. Le live TikTok est cool, ça m'a permis d'éteindre mon tel, d'écouter un podcast. Défécateur nous dit, franchement, je pense que c'est mieux pour tout le monde, le format horizontal, on verra mieux les articles, c'est plus simple à l'arrière. Bon, eh ben demain, on tente ça, ok? Ok? Bon, merci. Ami TikTok, je vais cut le live maintenant, parce que moi, je vais faire un raid sur Twitch qui, forcément, ne bah, vous intéresse pas. Hein. Donc, merci pour ceux qui sont venus ici. À demain matin, avec une autre réalisation. Et puis demain, vous me direz... Alors, un raid, c'est quand on envoie sa communauté, enfin son public sur Twitch, sur une autre chaîne Twitch. Alors, pardon, du côté de TikTok, on me pose une question, évidemment. Je crois que sur TikTok, ça n'est pas possible. Quand tu fais un live sur Twitch, tu peux décider d'envoyer tes... Là, par exemple, on est à un peu plus de 3000 viewers sur Twitch. Tu peux envoyer ces 3000 personnes sur la chaîne, sur une autre chaîne Twitch, d'un ami ou d'un inconnu, pour lui donner la lumière, pour le mettre en avant, quoi. Et je le fais tous les jours depuis presque 5 ans, ça me semble important. On ne peut pas faire ça sur TikTok. Voilà. Merci encore les amis, à demain matin pour un nouveau live sur TikTok dans une autre forme. Voilà. Prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres autour de vous. Et maintenant je vais dire au revoir à mes amis de Twitch. À demain, bonne journée les amis, merci encore. Arrêtez maintenant. Voilà. Voilà, donc là on a les stats par exemple, on a quitté les amis de TikTok, je suis qu'avec vous, Twitch, donc on a les stats par exemple, ici là, alors voir les données analytiques, alors, on a streamé 2h28, voilà, il y a eu 9000 personnes uniques sur le live TikTok, il y a 9000 personnes différentes qui sont venues sur le live. Voilà, on est monté à 700 spectateurs en même temps, ce qui est énorme en fait, ce qui est énorme, vous vous rendez compte, c'est mon deuxième live seulement sur TikTok, il n'y a pas de notification sur TikTok ou quasiment pas, c'est très très différent de Twitch, les gens ne sont pas du tout habitués à ce que je fais, que je fasse du live sur TikTok, et on est monté à 700, ce qui est énorme, donc il y a vraiment un truc à faire, un public. Aller toucher là-bas avec, avec ce genre de rendez-vous d'infos. Mais à un moment, très très vite, on a eu ce message d'alerte et on est tombé de 700 à 80. Tu vois. 5 fois moins que sur Twitch, ouais. Mais 5 ans de live sur Twitch. Et 2 jours sur TikTok. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. On parle pas de, c'est pas une histoire de stats, c'est pas une histoire d'avoir plus de stats. Je ne me pose même pas la question de la monétisation sur TikTok, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en revanche, je trouve intéressant de partager ce contenu, quoi. Voilà. Attends, on va voir à quelle heure c'est. On va voir à quelle heure. Et on a eu ce message. Comment on fait déjà pour avoir l'heure information? Ah voilà. Ah, mon iPhone me dit 15h12. Bon, mais sur mon iPhone est un peu déréglé, quoi. Je pense pas qu'il était 15h12 ce matin. C'est un petit peu déréglé, quoi. Voilà. Donc, voilà, on est tombé de 600 à 80, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais poser la question à TikTok France, savoir est-ce qu'ils veulent ce contenu, est-ce qu'ils veulent l'encourager ou pas. S'ils veulent pas, je ferai pas. Hein? Ouais. Ah, t'as raison. Voilà. Bon, merci pour ce matin, les amis. Bon, du coup, on va faire un raid et on se retrouve. Je vous tiendrai au courant de ça. On se retrouve ce soir, mais sans doute assez tardivement pour un petit stream de gaming, parce que je dîne avec mon amoureuse. À moins que je lance un peu de Valo cet après-midi. Peut-être, je sais pas. Ouais, je vais voir. Faut que je fasse du sport aussi. Mais en tout cas, il y aura peut-être un deuxième live aujourd'hui. Demain matin, à la revue de presse. Et on va faire un raid. Qui est en live? Je vois plein de propals sympas là. Alors. Ouais, c'est une bonne idée en vrai. Ouais, il y a l'ami. Je crois qu'il y a Battlefield 6. Voilà, en mode bêta là. Hein, qui vient d'être lancé. Et il y a l'ami Alpha Cast qui est dessus. Le titre du stream, c'est un vétéran de Battlefield 2 reprend le service 20 ans plus tard. Battlefield 6 bêta toute la journée. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Allez, on va voir Alpha. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, vous le savez. Rappelez-vous du stream au Louvre avec AlphaCast, c'était incroyable. C'était trop, c'était vraiment un de mes bons souvenirs de live de l'année dernière, ça. Voilà, merci les amis, on va voir Alpha sur BF6 donc. Merci encore pour ce matin et à cet après-midi, ce soir, peut-être, en tout cas demain matin, ça c'est sûr. Merci encore pour la force que vous donnez aux créateurs de contenu, vous êtes formidables. Je me suis régalé ce matin. À demain pour de nouvelles actus. Ciao ciao les beaux gosses. Ça lance le raid, ça part dans quelques secondes. Oh, c'est trop bien. Merci Maxi pour le Prime, merci El Fabinho, merci Zouli86, merci Gregorio. Il y a plein de subs que j'ai ratés. 3, 2, 1, c'est parti. Encore merci.
C'est violent. Oh, le level design est très très cool. Hein. Ah, mais moi j'y vais quand vous serez là. Hein. Je vous attends. Hein.
J'arrivais pas à viser.
Ouais, my god.
My god. Ah, merci Samuel. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Samuel, on est sur le prochain jeu auquel faut que je te fasse un tuto là. Tu vas voir, ça va te plaire.
On va essayer de te rejoindre avec le tank Alpha.
Ah, bah ce serait parfait. Après, faire, je vous cache pas que là où je suis, ça va être du recover.
Oh là, on arrive, là, on arrive.
J'ai tellement pas où je suis.
Poussez-vous, on arrive.
Le point B est pas le plus accessible en tank, mais on devrait pouvoir empêcher les flancs.
Casse les murs là, vas-y, passe au milieu.
Je suis en train de caper là, je cap.
Y'a personne ouais, sur ton point.
Je suis à un quart, alors que peut-être.